Je rigole parce que Jean-Claude, tu viens de mettre dans le morceau de Peter Gabriel, qui est le générique maintenant de l'émission que je vais animer, un petit morceau qui était le générique de mon ancienne émission. Voilà, donc c'est un joli petit cadeau que tu me fais. Donc bonjour à tous et à toutes. Là, je vais être sur la web TV Étoile du Cœur pendant un petit moment, je ne sais pas combien de temps. Si je suis là, parce que Jean-Claude, ça fait longtemps qu'il m'a demandé de venir pour faire une émission. J'allais dire cet enfoiré. Cet enfoiré, il a fallu qu'il se mette dans un état physique pour que je puisse venir. Voilà.
Je l'aurai un jour.
Voilà.
Je l'aurai.
Pour ceux qui ne savent pas, donc Jean-Claude est malade actuellement. Il n'a plus de corde vocale, donc il ne peut plus animer ses émissions. Je lui propose de venir de temps en temps pour animer quelques émissions. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir, en fait. Je fais ça par amitié, par amour, parce que ça me fait plaisir. Et j'espère que tout le monde sera content, que les émissions qui seront faites dans ce studio seront de bonnes émissions, où les petites graines seront semées pour que les gens puissent avoir des prises de conscience, pour que vous ayez peut-être une vie qui soit ce qu'elle est, peu importe, je ne vais pas la qualifier. Et puis voilà. Donc bon vent à moi sur ce grand navire de la web TV Étoile du Cœur.
Alors, à propos de l'enfoiré, je te retourne le compliment. Souviens-toi, un mardi sur deux, sur IDFM Radio Anguin, avec toi, j'animais une autre émission qui s'appelait Univers Luni.
Ah oui.
Salaud.
Je suis très content parce qu'en fait, Armel, qui est notre invité ce soir, ne connaissait pas cette chanson de Michel Jonas, Univers Luni.
Non, pas du tout, c'est la première fois.
Je suis très content que tu l'aies découvert.
Ouais, voilà. Merci beaucoup.
D'autant plus que, quelque part, Michel Jonas est une présence ce soir, puisque nous l'avons invité et accueilli à travers sa chanson. Mmh. Michel Jonas est quelqu'un de très branché aussi spiritualité. C'est quelqu'un qui a fait une maison d'édition où il a publié des livres justement sur ce sujet.
Okay.
Et à l'époque, dans mon parcours, à un moment donné, j'allais au centre de la Kabbale et Jonas y allait aussi.
Okay.
Et je l'ai croisé une fois ou deux et à chaque fois, il était là, c'est le type dans son monde. Enfin, voilà, parenthèse fermée. Mm. Bonsoir, Armel.
Ben bonsoir, tu vas bien, Franck?
C'est bien, c'est toi qui vas m'interviewer. Oui, je vais bien. Et toi?
Je vais vraiment très bien.
Tu vas vraiment très bien.
Ouais.
Okay. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, je sais que certaines personnes qui nous regardent sur la web TV te connaissent. Uh-huh. Parce que certaines personnes te suivent sur ta page Facebook, te suivent sur tes pérégrinations. Uh-huh. D'autres personnes suivent la web TV parce que, ben voilà, elles aiment le programme. Okay. Donc, il y a quand même certaines personnes qui ne connaissent pas Armel, qui ne savent pas qui tu es, pourquoi tu es là. Mais avant de parler ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es, ta nature profonde, ta source première, je ne sais pas comment tu vas définir ça. Il y en a qui sont éveillés, il y en a qui disent autre chose, peu importe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours?
Moi non plus, je ne sais pas pourquoi je suis là.
Mais oui.
Qu'il sait seulement.
Est-ce que tu peux déjà nous dire, la petite Armel enfant, qui était-elle? Dans quel milieu elle a grandi?
Oh ben, écoute, enfant, j'étais comme je suis aujourd'hui en fait. C'est-à-dire pleine de joie, pleine de vie, comme on dit en Belgique, hyper spitante.
Hyper spitante.
Spitante. Tu sais, c'est comme c'est comme l'eau pétillante, ça spite.
Je vais t'appeler Badoua.
Ah, c'est ça.
Armel Badoua.
Hyper pétillante, juste qui aime la vie, quoi. Vraiment une amoureuse de la vie. Et Armel petite fille, c'est véritablement ça. C'est déjà hyper passionnée par tout ce que je fais. J'ai fait de la compétition en gymnastique, de la gymnastique pendant 6 ans, et puis j'ai toujours été comme une boule d'énergie, comme ça, vraiment à vivre pleinement tout ce que je vis. Et voilà, Armel petite, c'est pas mal ça, et puis qui continue pas mal à grandir comme ça, en fait, véritablement. Jusqu'à, quand j'étais petite, j'adorais aller à l'église, j'adorais aller à la messe, j'adorais Jésus, c'était mon meilleur ami, je lui parlais tous les jours, c'était mon confident, c'était à lui que je disais toutes mes tristesses, tout ce que je vivais.
C'est-à-dire que lorsque tu rentrais dans ton lit, si tu avais une tristesse, tu parlais à Jésus.
Avant
de rentrer dans le lit.
Ouais, je me souviens, j'avais un petit truc à côté de mon lit, je sais plus quoi exactement, mais je me souviens que c'était comme si je m'agenouillais, je pense. Où je m'asseyais près de mon lit.
Un petit hôtel.
Ouais, je pense que je devais avoir peut-être une photo de lui ou peut-être une petite croix ou quelque chose comme ça. Puis c'était assez symbolique. Et ouais, je lui parlais comme ça à n'importe quel moment. Parfois c'était mon chat aussi. Mais ouais, j'avais quand même toujours comme ça un confident qui était là à qui je pouvais raconter tout ce que je vivais en fait.
Et c'était Jésus.
Souvent c'était lui, ouais. Et puis en grandissant, en étant adolescente, Jésus est un peu tombé. C'était plus les hormones qui ont pris le pied. De l'amour inconditionnel, c'est passé à l'amour...
l'amour physique.
Ça change. Et puis jusqu'à 23 ans, en fait, la mort de mon fils. Donc 22 ans, je suis maman. 23 ans, mon fils, 13 mois, décède. Et puis ça me ramène vraiment à ça, en fait. Il est resté 5 jours aux soins intensifs et durant cette période-là, j'ai fait que prier. J'ai beaucoup prié et puis il y avait aussi il était juste devant une fenêtre et il y avait un soleil qui était merveilleux, qui était là quasi tous les jours et qui me ramenait vraiment à cette présence que je connaissais pas nécessairement, en fait, je pouvais pas vraiment mettre de mots à l'époque, mais me ramener à cette présence au-delà de la forme. Et comme un certain réconfort, en fait, dans tout ce qui se passait, je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui était là. Et puis, voilà, une immensité de la douleur qui se vit, une brèche énorme, un vide que je connais pas, et puis au travers de ça, une profonde reconnexion à moi, je pense, que je mets pas vraiment de mots de nouveau à l'époque.
Mais tu dis que pendant que tu étais à l'hôpital,
aux côtés de mon fils,
à côté de ton fils, au chevet de ton fils, et que tu priais, tu ressentais comme un réconfort.
Ouais, il y avait quelque chose, je pouvais.
Il y avait et la souffrance, je suppose, de l'époque qui faisait, voilà, elle était là, et en même temps, tu étais comme scindé en deux, c'est-à-dire une partie qui souffrait, une partie réconfortée. Comment
c'est difficile.
Est-ce que tu peux expliquer ça?
Ouais. Il y avait comme une présence, en fait. Je sais pas, j'ai vraiment un flash là, alors que je te parle. Je m'en souvenais pas, en fait, mais ça me vient là. Je vois véritablement, j'étais souvent dans ce soleil qui était là derrière et qui brillait et qui me ramenait vraiment à cette présence, en fait. Donc il y avait comme un espoir, il y avait comme une douceur qui était là, alors qu'il y avait en même temps, très souvent, cette inquiétude, cette peur, cette douleur en même temps, très présente, de ne pas savoir ce qui allait se passer, en fait. Mais c'est comme si les deux se mélangeaient. En même temps, il y avait tout ça, et en même temps, il y avait... Je ne sais pas expliquer, en fait, ça. Je ne sais pas mettre...
C'est difficile.
On ne peut pas mettre de mots là-dessus. Ça a ouvert quelque chose, en fait. Ça m'a rappelé à ça, véritablement.
Parce que ça doit être très particulier de vivre et cette tristesse d'un côté, et de l'autre côté, se dire, mais il y a autre chose qui est en train de vivre à l'intérieur de moi,
alors qu'à
l'extérieur, est en train de partir un être cher.
Et je ne me le disais pas, en fait. C'est juste avec le recul que je peux mettre des mots sur ce que je vivais. En fait, une compréhension qui se fait sur ce que je vivais à l'époque. Mais très vite, même dans les jours qui ont suivi, il y avait juste un désir de vivre qui était présent en moi. Il y avait une force qui était là, il y avait quelque chose où ça flanchait pas, en fait. Et je pouvais pas l'expliquer. Il y avait aussi une grande joie qui était présente, il y avait aussi beaucoup de rire, il y avait un émerveillement retrouvé pour les petites choses du quotidien. Il y avait tout ça qui était présent en même temps de cette douleur profonde, en fait, cette intensité de pas savoir comment gérer ce qui se passait. Mais
ce rire était apaisant, c'est-à-dire que c'est pas, on sait bien que le rire ou le pleur, des fois, c'est la même chose. C'est toi le rire nerveux, etc. C'était pas ce rire nerveux-là.
Non, c'était
parce que tu as ressenti à l'époque.
Non. C'était il y avait une joie profonde qui était présente et comme presque. Est-ce que c'est permis, quoi? Est-ce que c'est autorisé de rire autant et d'être autant heureuse, d'être autant joyeuse?
Mais c'est la question que j'allais te poser parce que une maman avec son enfant décédé ou à l'hôpital, heureuse, joyeuse, qui rit. Mais, comment tu vis ça? C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait une troisième entité à l'intérieur de toi qui observait ça, qui disait, mais je peux pas être ceci et cela. Et en même temps, il y a ton entourage qui dit, mais que se passe-t-il? Que vit-elle? Et après, tu parleras, Jean-Claude.
Il y a évidemment énormément de culpabilité. Cette joie, je la touche vraiment, en fait, après sa mort. Dans la période où il est à l'hôpital, il y a juste cette présence, en fait, que je découvre ou que sur laquelle je m'appuie, mais sans véritablement m'appuyer non plus. C'est juste là, en fait. Je ne sais pas comment le décrire d'autre. La joie, elle vient plus après. L'émerveillement, il est très très présent dans ce soleil, dans cette présence. L'émerveillement est très très fort là, durant ces 5 jours. La joie, elle vient plus après, en fait, quand il est plus là. Il y a juste ça qui est là. Il y a personne qui juge quoi que ce soit. Il y a personne qui remarque quoi que ce soit, je pense, non plus de ça. Il y a plus... Moi, je pose la question, en fait. Je me demande, tiens, est-ce que c'est OK? Et puis, je pose la question à mon cousin. Je me dis, tiens, quand ta maman est décédée, est-ce que tu riais encore? Genre, est-ce que c'est normal? Ouais, c'est ça, j'étais vraiment perdue par rapport à ce qui était ok, ce qui était pas ok. Et pourtant, ça se vivait, de toute façon. C'était là. C'était ce qui était présent. En même temps, je sens un désir de vivre beaucoup, enfin, de vivre avec des amis, nos amis proches, On a vécu avec eux pendant plusieurs semaines, en fait. Et pour moi, ça a été, c'était très important. C'était ce désir de vivre qui était présent. Et je sentais que je suivais simplement ce mouvement intérieur, en fait. Je suivais ce que je sentais au plus profond de mon être. Donc on a quitté notre appart, on est allé pendant plusieurs semaines vivre avec eux, avec nos amis, qui ont aussi un petit garçon, qui est proche de l'âge de mon fils. Et puis je sens que ce lien est super important pour moi. Donc ce qui se passe, en fait, pour moi, c'est comme si mon fils m'avait redonné naissance. Donc ce qui s'est passé, c'était véritablement une écoute profonde de ce qui se passait. Et une authenticité de plus en plus forte. Trois mois plus tard, je quitte son père, on quitte notre appart, je quitte mon boulot, et tout change, en fait. Je change toute ma vie et je sens que la vie que je vis n'est pas celle que je sens au plus profond de mon être, et qu'il y a quelque chose qui, il faut que je le suive. Et puis ça fait pas de sens, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour son papa, il y a tout ce qui se vit et tout ça, mais je sens que c'est ça que je dois faire. C'est une question de vie ou de mort pour moi. C'est où je suis cet élan, ou je pars dans la mort avec. Et donc c'est véritablement ça pour moi, un appel de la vie qui se vit et puis qui se met en place dans les années qui suivent et qui ne peut plus s'arrêter, en fait. Et qui est toujours ce...
Qui est toujours présent.
Qui est toujours ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça.
Jean-Claude, tu voulais intervenir? T'as levé la main. T'as dit, monsieur...
C'est dur de rester silencieux.
Oui.
J'écoutais Armel parler de tes conversations avec Jésus. Et il y a un truc qui est arrivé. Et la question, je te la pose... As-tu pensé à un moment que Jésus avait guéri Gauthier et que ton fils, quoi qu'il arrive, était sain et sauf?
Non, j'ai jamais pensé que Jésus avait guéri Gauthier, mais je pense que Gauthier avait choisi de partir. Quelque part, on s'était rencontrés pour le temps qu'on avait à passer ensemble, parce que quelque part, en fait, d'être enceinte, ça m'a déjà révélé très fort à moi, en fait. Être enceinte, c'était une merveilleuse expérience, justement, où je me suis découverte d'une façon où je ne me connaissais pas. Je me suis découverte dans une douceur très profonde. Et je pensais pas que j'étais comme ça. Je me suis découverte dans une certaine féminité aussi, qui s'est révélée à moi dans le fait d'être enceinte, dans une écoute déjà plus profonde de moi. Donc je me suis déjà découverte en tant que femme, quelque part, d'une certaine façon, à travers ça. Et puis donc sa naissance, ma grossesse et sa naissance a révélé ça, sa présence a révélé encore plus cette douceur. Donc il est venu vraiment me révéler à moi, parce que cette douceur, je pense que c'était moi, mais je ne la connaissais pas. Je me voyais et je me connaissais très fort comme un garçon manqué, en fait. Je me connaissais très fort dans une énergie
très masculine,
très confiante,
très spitante.
Ouais, c'est comme ça. Mais c'est comme si j'avais l'intuition d'être plus que ça, mais je ne savais pas ce que c'était. Et donc il m'a révélé à ça. Donc, et quand il est mort, en fait, c'est comme s'il avait terminé le chemin de ce qu'il était venu faire. C'est-à-dire que pour moi, il m'a complètement donné naissance. Donc les 13 mois que j'ai passé avec lui, c'était une gestation. Donc je lui ai donné naissance, il m'a donné naissance. Et puis au terme de ça, en fait, dans cette douleur profonde, c'est encore plus ça qui s'est révélé, parce que je pouvais plus ne plus vivre. C'est comme s'il y avait une part de moi qui n'était pas pleinement vivante auparavant, et je ne pouvais plus. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose de complet qui s'est vécu entre nous. Donc, je ne peux pas même vraiment dire, en fait, je ne le vois pas malade. Pour moi, Gauthier, il n'est pas mort. En fait, sa présence, elle est toujours là. Il m'a aussi appris ça. Il m'a appris que la mort n'existait pas. Il m'a appris qu'au-delà de la disparition du corps physique, la connexion, la communication ne s'arrête pas, ne meurt pas, que sa présence, elle est toujours là, en fait.
Tu savais tout ça avant ?
Non, je ne le savais pas, en fait. J'ai découvert tout ça au travers de sa mort et dans les années qui ont suivi, et où de plus en plus ça s'est révélé à moi. Et puis aussi dans le fait de... J'ai continué à communiquer avec lui, en fait, parce que... Je savais pas ce qui se passait, donc quelque part j'avais pas d'accompagnement véritablement à mes côtés, mais il y avait quelque chose qui se révélait en moi. Il y avait un émerveillement profond qui était très présent, et du coup je lui ai parlé énormément, et plus je lui parlais, plus je me rendais compte qu'il était là, en fait. Et quelque part tout ça s'est révélé après, de façon très très prononcée, très profonde. Et il m'arrive encore parfois de sentir sa présence très 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 présente, quelque chose de très doux. J'ai un souvenir d'un gros câlin qu'on s'est fait quelques jours auparavant, en fait, qui était pour moi d'un amour qui était quelque chose que je sais pas si j'avais déjà vécu auparavant, en fait. Ce câlin, ça m'a, et c'est comme si pour moi c'est ça qu'il est, en fait, aujourd'hui. Il est cet amour qu'on a partagé dans ce moment, qui était vraiment quelques jours avant qu'il s'en aille.
Tu en as voulu à Jésus? J'insiste, hein.
Écoute, je sais pas, Jésus, personnellement, peut-être j'en ai voulu à Dieu, parce qu'il y a certainement eu de l'incompréhension. Comment t'as pu faire ça, en fait? Comment t'as pu me le prendre? Bien sûr, c'est passé. Et puis, ça a été tout un chemin, en fait, de vraiment voir que, en fait, c'était parfait comme c'était, et de voir justement tout ce qu'il m'avait donné. En fait, il ne m'avait pas véritablement pris quelque chose, il m'avait tellement donné. Et révélé à moi-même d'une façon que j'aurais jamais pu imaginer, en fait.
Merci, tu as répondu à ma question. Mm-hmm. Tu en as voulu à Dieu.
Bien sûr, bien sûr.
Mais je crois
ça
que...
Ça va durer.
Mais de toute façon, dans l'instant présent que tu vis, tu ne peux pas prendre forcément le recul nécessaire. Tu vois, si tu prends un coup de poing dans la gueule, tu te prends au poing.
Ça fait mal.
Ça fait mal, enfin, c'est ça. Enfin, je pense que cette expérience avec Gauthier, elle t'a fait mal.
Uh-huh.
Mais ce qui est intéressant, c'est de te voir aujourd'hui.
Mm.
Et ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est de se dire, mais voilà, quel que soit le chemin par lequel nous allons passer, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous allons passer, et il n'y a pas si longtemps, moi je disais, sûrement ce qu'il y a de plus terrible sur cette terre, c'est de perdre un enfant. Et je voudrais pas tourner qu'autour de ce thème-là, mais je...
Tu sais ce qui me vient alors que tu parles, en fait, c'est, j'ai l'impression que c'était ça que Jésus nous disait en disant, si on vous donne une baffe sur la joue gauche, tendez la joue droite, et ben voilà, c'est ça, j'ai l'impression. En fait, c'est comme si ça faisait du sens, là. C'est pas... faites-vous battre, quoi. C'est tendez la joue droite, c'est vous avez la possibilité de vous relever, en fait, de prendre. Ok, ça fait mal dans le moment où tu reçois la claque, mais t'es pas obligé de rester par terre, en fait. Tu peux te relever et continuer à vivre parce que la vie ne s'arrête pas avec ça. Il y a juste la douleur du moment, il y a l'intensité du moment, il y a les émotions qui sont là dans le moment, et puis elles ont été vécues, et puis dans le moment et après. Ça ne veut pas dire que les émotions sont arrêtées. Il y a eu évidemment tout un cheminement par rapport à ça, parce que ça a été l'ouverture d'une brèche véritablement. Donc ça a révélé beaucoup plus de tristesse, beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de douleur qui était présente. Et quelque part, j'ai l'impression aussi, au travers de cette reconnexion qui s'est passée pour moi à ce moment-là, véritablement, je pense qu'on vit tous des moments comme ça où il y a une brèche qui s'ouvre tellement. En fait, ce qui se révèle aussi, c'est un amour immense, cet émerveillement pour moi, cette présence que je sens, c'est aussi un amour immense qui passe. Et donc, dans cette reconnexion, ça révèle, ça permet dans cette grâce, quelque part, peut-être, ou cet amour, de révéler encore plus de douleur. Donc, quelque part, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme dans cette brèche qui s'ouvre, c'est aussi la brèche à tout ce qui a été refoulé et que ça remonte. Et donc, petit à petit, les années qui suivent, c'est ça qui se passe aussi. Et je pense que l'un va avec l'autre. On dit souvent, tu passes pas la lumière sans passer par les ombres. Et donc, je pense que, quelque part, on a tous l'opportunité, au travers de toutes les épreuves qu'on traverse, d'aller visiter, en fait, tout ce qui a été refoulé, d'aller visiter toutes les croyances qui sont présentes, d'aller visiter partout où il n'y a pas de pardon, d'aller visiter partout où il y a eu de la colère refoulée, où il y a eu des choses qui sont passées. Et donc, la vie va nous le resservir sur un plateau d'argent, et c'est l'opportunité de tout lâcher, en fait, et de voir toutes ces choses-là au travers de la lumière du pardon véritable, qui pour moi est la reconnaissance de notre véritable nature, c'est-à-dire la reconnaissance de cet amour inconditionnel qu'on est. Et puis c'est peut-être là que Jésus fait tout son sens encore, parce que véritablement pour moi, il revient dans ma vie il y a 6 ans ou quelque chose comme ça, au travers d'un livre qu'on m'offre quand je vis au Québec, qui s'appelle « Et l'univers disparaîtra », et puis qui mentionne beaucoup Jésus, qui mentionne le courant miracle. Et ce livre, je suis comme « Oh my God !» Je savais que Jésus n'était pas celui dont on m'avait parlé à l'église. Et puis là, il y a mon cœur qui s'ouvre, je vis le livre, j'ai l'impression, et puis ça me reconnecte encore plus fort à ça, quoi. Véritablement. Et puis en même temps, à moi, parce que c'est pas comme... Voilà, c'est ça, au travers de lui, ça me reconnecte véritablement à l'amour inconditionnel et à ce désir d'aimer qui est là depuis aussi petite que je m'en souvienne, à cette beauté chez tout un chacun, à cette connaissance que tout le monde est bon, véritablement, à la base, tout le monde est profondément bon et qu'on a tous la possibilité de se reconnecter à ça, en fait. Et donc, c'est ça que je vis aujourd'hui, c'est véritablement cette spontanéité enfantine, cette innocence, cette insouciance et tout ça, en fait.
Mais, donc, il a fallu qu'une âme s'incarne s'appelant Gauthier, pourra aller fouiller dans ta croyance, pourra aller faire une brèche dans ton armure, afin que tu puisses goûter à ta véritable présence.
Exactement.
Et je crois que ça, c'est très important, enfin, me semble-t-il, comme message, c'est-à-dire, ce que vous recevez de Dieu, c'est pas forcément des caresses, c'est pas forcément des roses, c'est pas forcément... Des fois, c'est un grand coup de pied au cul, des fois, c'est des épreuves difficiles à vivre. Mm-hmm. On a envie de maudire la vie, on a envie de cracher la gueule de Dieu.
Bien sûr.
Mais tu me fais chier, putain, merde, pourquoi je fais ça?
Et tu aides l'univers entier pendant un moment. Qu'est-ce que c'est possible, quoi?
C'est ça, c'est parce que tu... Moi, je vois sur les réseaux sociaux, Facebook, tu vois, les gens, oh, Dieu, enfin, c'est le côté bisounours que j'aime beaucoup. Mais le côté... pas bisounours, le côté, oh, je te rentre dedans, quoi. Eh ben, c'est ça aussi, la grâce divine, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui coule, c'est pas du miel chaud, quoi, qui arrive. Voilà, des fois, c'est de la... C'est de la... De l'huile brûlante et... il faut se le prendre en pleine gueule.
Ouais. Et
c'est important,
je pense,
de le dire, je crois. Ça.
Ouais, moi je parle beaucoup d'explosion de la vie, tu vois, parce que je pense que, en fait, on a un feu comme ça qui brûle en nous. Puis moi, j'ai l'impression que ce feu, il a toujours vécu en moi. Et puis ce feu, il est l'ensemble, en fait, il est tout. Il est cet amour qui brûle et il est en même temps aussi ce qui permet à cet amour de se révéler encore plus fort et plus puissant et qui en même temps brûle. Tout le reste, en fait. C'est-à-dire que... moi, ces dernières années, je suis passée par des rages à des moments où j'imaginais même pas que ça pouvait être là, en fait. J'imaginais pas que j'étais comme ça. Je me dis, quand j'ai voulu... J'étais comme, oh my God, ça vient, tout ça, c'est pas possible, c'est en moi. Et puis, tu l'accueilles, quoi. Enfin, tu l'accueilles même pas. Tu le vis. Enfin, moi, c'est ça. L'accueil, c'est même pas un faire pour moi. C'est, tu le vis. Et puis, moi, j'étais mariée à l'époque et mon mari me disait, tu dois être en paix. Et j'étais comme, mais je suis pas en paix, là, je suis en rage. Et puis, c'était juste pour moi, dans le moment où il y a la rage qui se vit, de vivre cette rage. Quand la rage, elle se termine, il n'y a plus que de la paix. J'ai vécu des moments, en fait, en permettant tellement à cette rage de se vivre, où j'ai vu, en fait, de nouveau, c'était la même expérience. Et ce qui sous-tend cette rage, c'était un silence. Mais un silence d'une profondeur. C'est comme si tu passais le mur du son, en fait, où il y a...
Là, tu donnes un exemple, personne ne le sait. Parce qu'on est... Ah si, à travers les avions, ouais. Non, je pensais moi, toi, en courant. J'imaginais de passer à travers le mur du son en courant.
Mais je pense que si tu t'arrêtes un moment, tu peux sentir ce passage du mur du son, ce silence qui est... Intuitivement, je pense qu'on sent tout ça, en fait. Intuitivement, on sait tout ça. Il n'y en a pas un, pour moi, sur cette terre, qui sent pas ça, qui a jamais senti ça. Il y a juste qu'il n'y a jamais personne qui est venu le pointer, qui est venu dire t'es ça. Et qui est venu dire ça, c'est ta complétude. Ce que t'as cherché dans tous les endroits où t'es allé chercher, c'était juste là. Ça a toujours été là. Et si tu t'arrêtes, tu peux y goûter de tout ton être, dans ta profondeur la plus intense. Et c'est juste ça, en fait. Pour moi, c'est que je pense que la plupart des gens ne savent pas. Tout simplement. Et si on le pointe, si on en parle de plus en plus, ça, c'est juste comme « Ah ouais !» Mais ça rappelle à quelque chose qui est là. C'est pas la quête de quelque chose qui n'a jamais été là, qu'il faut atteindre ou qu'il faut trouver. Il n'y a pas de quête.
Tout est là.
Il y a juste à s'arrêter pour voir que c'est là, en fait. Et pour moi, c'est ça la beauté de... Pour moi, c'est ça la beauté de ce que je partage aujourd'hui. C'est vraiment de ramener à la simplicité de cette présence qui n'a jamais pas été là.
Je sais qui c'est Guichard. Merci pour cet intermède, cet interlude musical, Jean-Claude.
C'est fabuleux, hein, ce que la chanson dit, en fait. Je pense que c'est véritablement important.
C'est Daniel Guichard, entre parenthèses.
Okay. Voilà. C'est important parce que, justement, ça parle exactement de ce dont je parlais, c'est-à-dire que l'amour inconditionnel a été remplacé par l'amour humain. Et c'est qu'on a perdu la connaissance de notre source, une de notre source, une. On peut l'appeler Dieu, l'univers, la vie, peu importe, la conscience, l'absolu, peu importe ce qui nous parle, en fait. On a perdu la conscience de ça parce qu'on a cru que notre seule source, c'était nos parents. Et donc on a constamment cherché notre complétude dans la forme, c'est-à-dire dans un amoureux, une amoureuse, dans l'argent, dans nos parents, dans la propriété, dans quoi que ce soit, dans une drogue, peu importe, là où on a cherché, c'était pas là. Et le seul endroit où on va le trouver, c'est dans notre véritable nature, c'est-à-dire dans la reconnexion à la source divine, à la source de toute chose, c'est-à-dire à cet absolu, à cet invisible, à ce dont on parlait là maintenant. Et donc en fait, en effet, il y a un Dieu qui a été créé de cette impression de division, de séparation, et qui a été fait de la main d'homme comme un Dieu punisseur et vengeur. Et en fait, il y a une rage comme ça envers Dieu parce qu'on croit que le monde nous est fait. Et donc on croit que, comme on croit qu'on vient de nos parents, on croit qu'on vient du monde. Donc on croit que le monde nous est arrivé à nous au lieu de voir que le monde vient de nous. C'est-à-dire que quand on se reconnaît dans notre véritable nature, on se reconnaît qu'on est la source de toute chose. Donc le monde naît en nous. On est le monde. Et ça change toute la perspective parce que quand on se croit être simplement un individu venant de nos parents, c'est-à-dire un petit individu séparé, tout petit par rapport au monde, on est victime de tout en permanence. On se croit victime de tout, en tout cas en permanence. Donc on croit que nos émotions, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, vient du monde, vient des autres. Et du coup, on se sent impuissant. Quand on se reconnaît dans notre véritable nature, on voit que le monde vient de nous, qu'il est le reflet de ce que nous sommes. Et du coup, on se reconnaît dans notre toute-puissance, en fait. On se reconnaît dans le fait qu'à chaque instant, on a le choix de nous connaître dans notre véritable nature, la source de toute chose, le sans-forme, ou de nous croire limités et victimes de tout. Et ça change toute la perspective. Et pour moi, le bonheur, c'est juste ça, en fait. C'est est-ce que je me reconnais dans l'invisible sans-forme, qui se vit dans la forme, bien sûr. Ou est-ce que je crois mes pensées, mes croyances limitantes, je vis basé sur tous mes conditionnements du passé, et là je me sens limité et je souffre. Et c'est indéniable alors, la souffrance, c'est inévitable. Et là, je pense que c'est le seul choix qu'on ait, mais c'est le choix qui bascule toute notre vie, en fait. Et ça, c'est à chaque instant. C'est pas dans un futur quand on aura fait quelque chose ou atteint quelque chose. C'est véritablement à chaque instant qu'on a cette possibilité. Et donc à chaque instant, la vie nous invite à ça. À travers toutes les situations qu'on rencontre, à travers toutes les rencontres qu'on fait, à travers toutes les expériences qu'on vit, pour moi, il y a une seule chose, un seul but. Est-ce que je me reconnais dans la vérité de ce que je suis? Ou est-ce que je me connais ou me reconnais dans le limité et les conditionnements passés? Et de ça change toute notre expérience.
Oui, mais pour se reconnaître dans la vérité que tu es, il faut accepter aussi, puisque tu donnais cet exemple de la rage, d'accepter la rage, puisque c'est aussi la vérité du moment présent. Quand tu parlais de rage tout à l'heure et que derrière cette rage, il y avait ensuite une plénitude totale, tu pouvais regoûter à ça, mais il fallait d'abord passer par la rage.
Dans ta croyance, et
dans ce que tu avais à vivre. Certaines personnes ne vont pas vivre ça. Mais ce qu'il y a, c'est que il me semble que nous avons à passer par ce que nos croyances vont nous faire vivre, que ce soit agréable ou pas, acceptons-le. C'est ça, me semble-t-il.
Mais l'acceptation, pour moi, c'est pas quelque chose à faire, en fait. C'est ça le truc, c'est que bien souvent, on croit que l'acceptation, il faut faire quelque chose, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Ben moi, je crois pas ça, en fait. Pour moi, l'acceptation, c'est l'émergence de ce qui est déjà là. C'est déjà accepté. Tout est déjà accepté par le simple fait d'émerger. C'est-à-dire que la mort de mon fils, elle a été acceptée parce qu'elle est arrivée. Le fait d'arriver, elle est déjà acceptée par la vie que je suis, par la conscience que je suis, qui fait, par l'absolu que je suis, qui fait que l'émergence de cette expérience, c'est l'acceptation déjà de cette expérience. Après, il peut y avoir rejet total, résistance totale, rage totale par rapport à cette expérience. Et ça, c'est une autre expérience. Et ça se vit aussi. S'il y a refoulement de tout ça, mais c'est quelque chose qui est dans l'instant. Et donc, toutes les expériences, tu vois que par le fait d'émerger, quand il y a rage, il y a rage. Quand il y a refoulement, il y a refoulement. Mais dire je dois accepter la mort alors que je suis en rage totale par rapport à ça, c'est, pour moi, c'est aller contre nature, en fait. S'il y a rage, il y a rage. Et c'est ça que j'expliquais dans cette expérience. C'est que c'est quand ça. On me disait, tu dois être en paix, alors que j'étais en rage, j'étais comme, non, là, je suis en rage. Et le fait d'être en rage, mais de l'être à 100%, quelque part, c'était, pour moi, c'était une découverte profonde, en fait. Alors que je me suis laissée vivre, autorisée à vivre cette rage, sans l'accepter, sans la refouler, sans essayer même de la minimiser, juste de la vivre. Ce qui a été découvert au cœur de ça, c'est que, au cœur de cette rage, il y avait un calme qui était hyper profond, quoi. Et j'étais stupéfaite par cette expérience. Et cette expérience est venue vraiment me montrer l'importance pour moi, en fait, de vivre le moment tel qu'il est, au lieu d'essayer de le spiritualiser, justement, en disant, il faut que tu l'acceptes. Non, je l'accepte pas. Dans l'instant, je vis la rage.
C'est ça.
Et cette expérience, je me souviens, en fait, c'était ce qui se passait, c'était de la jalousie, en fait. Je vivais une jalousie hyper profonde et j'étais dans la rage. Et c'était tout ce qui venait parce que je pouvais pas vivre autre chose dans l'instant, c'était ce qui était là. Et c'était fabuleux de faire cette découverte. Et c'est pour ça que je pense que toutes les expériences, en fait, il y a un mouvement parfait dans la vie. Et si on peut voir la perfection dans le mouvement de la vie telle qu'il se propose à nous à chaque instant, même si la vie est le reflet de nos croyances, évidemment, parce que tout ce en quoi je crois, j'en fais l'expérience, même si c'est comme ça, il n'y a pas une culpabilité à vivre tout ça. Il y a à voir que dans cette expérience, dans comment la vie me propose les choses en fonction de ce en quoi je crois, j'ai l'opportunité à chaque instant de me reconnaître et de me découvrir quand même dans cette expérience, de me découvrir dans mon essence la plus profonde. Et pour moi, ça, c'est essentiel, en fait. Et là, du coup, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que tu spiritualises plus rien. Moi, la spiritualité, comme on m'en parle aujourd'hui, ça ne fait plus aucun sens. Ça fait déjà plusieurs années que je parle, enfin, ou je pense en tout cas certainement plus d'un an que je parle de, il n'y a que la vie. Il n'y a pas de chemin spirituel, il n'y a pas la spiritualité et la vie, il n'y a que la vie. C'est dans notre quotidien, à chaque instant, dans l'ordinaire. Et j'aime en anglais le mot messitude, parce que le mess, en anglais, c'est le bordel, en fait. Dans la bordélitude de notre vie, c'est là que ça se trouve. C'est là que la grâce se trouve à chaque instant. C'est pas dans, il y a Dieu qui descend sur terre et subitement, non, c'est à chaque instant.
C'est ça.
Il y a ce que je vis, et à chaque instant, il y a ce feu de la vie qui m'anime, et cette possibilité de me découvrir à travers ça. Pas dans le refoulement, pas dans le rejet, dans l'inclusion totale de tout, en fait. Et ça, pour moi, c'est fabuleux, parce qu'on découvre, on se découvre. Véritablement dans une profondeur et une beauté et... Ouais, enfin...
c'est bien. Voilà, le mot spiritualité, on le met de côté.
C'est ça.
Le mot Dieu, il te parle encore. Et quelle serait ta définition, toi, si tu avais une définition du mot Dieu? Pour ceux qui t'écoutent, parce que tu vois, il y en a qui... qui a encore un Dieu extérieur en se disant... attention, j'ai fait ça, c'est pas bien. Peut-être que je vais recevoir... pas ça,
la punition,
puis la punition, puis quand je vais mourir, et je vais aller en enfer. Tiens, définition de Dieu, si tu en as une aujourd'hui, ou c'est quelque chose qui, non, enfin toi ça te parle plus, ou est-ce, et puis enfer, paradis, ça, toi, des notions comme ça, tiens, ça m'est venu tout d'un coup.
Tout à fait.
Allez, Dieu, enfer, paradis. T'as jusqu'à 21h.
Non,
je rigole.
Mais Dieu. Pour moi, Dieu, c'est ce qu'on est, donc c'est le sans forme. C'est quelque chose de pas palpable, mais intuitivement, on sent tous une présence qui est au-delà de la forme. C'est ce que je dis, quand on s'arrête pendant un moment et qu'on laisse passer les pensées, il y a un silence qui se fait, il y a une présence qui est là, pour moi c'est ça. C'est-à-dire c'est nous. C'est nous, mais pas dans le sens « je suis Dieu, je suis... » Non. C'est nous dans le plus subtil des subtils,
dans ce nectar de... Et ce sont que des mots.
Tu peux sentir ça. Voilà.
C'était, pour revenir quand même à certaines... je trouve plus mon mot, mais certaines traditions, c'est Amestris Mégis qui disait... séparer le subtil de l'épais, ça serait ça, c'est-à-dire l'épais serait peut-être la forme et le subtil la non-forme.
Oui, on pourrait dire ça. C'est en tout cas rien comme un gars avec une barbe blanche sur un nuage, quoi. Dieu, c'est pas ça.
C'est pas vrai.
C'est pas ça du tout.
Armel, arrête.
mais je pense que c'est important justement de vraiment voir que ce concept, en fait, parce que je l'ai eu pendant très longtemps, j'ai pu voir qu'il y avait une petite fille qui aimait Dieu, et cette petite fille innocente qui aimait Dieu, ça mettait en fait cette forme comme ça, ça mettait un Dieu à l'extérieur, en fait. Mais et il y avait un attachement à cette petite fille parce qu'il y avait une innocence qui était là, mais il y avait une innocence de petite fille avec un Dieu qui était tout grand, et donc il y avait justement cette peur du coup de Dieu. Il y avait du coup cette peur de la punition, cette croyance, tu peux bien faire ou tu peux mal faire. Et tu peux faire un bon choix, tu peux faire un mauvais choix. Et attention, tu dois surtout bien faire les choses parce que si tu ne les fais pas, Dieu va venir te punir. Et je pense que cette rage justement, cette rage envers Dieu, par rapport à la mort de Gautier, elle venait de cette interprétation de Dieu qui était encore divisée en fait. Mais quand tu sens cette impression... c'est fabuleux, il y a justement Jean-Claude qui nous parle de développer cette rage, et puis j'en reviens à ça. Cette rage de l'époque, c'était dans cette division, en fait, dans cette impression que il y avait Dieu qui me faisait passer une épreuve, et donc il y avait Dieu et il y avait moi, et c'est, la rage, elle n'était pas véritablement dans l'épreuve, même si on croit que c'est ça, c'est dans la division, en fait. C'est dans la croyance que je suis victime justement de quelque chose. J'ai dû mal faire à un moment qui fait que maintenant j'ai la punition divine.
Et mon doigt se lève et tu t'arrêtes. C'est le doigt de Dieu. Avant, parce que voilà, ce que j'avais pas dit, c'est qu'il est possible que les internautes puissent poser des questions à travers Facebook.
D'accord.
Et avant de répondre à la question que Pierre Paulet pose à Armel, j'aimerais savoir, et c'est mon sentiment, mais est-ce que tu crois que la peur d'un Dieu extérieur qui punirait, qui dirait t'as pas bien fait, mais donc ton fils il va mourir, ou t'as bien fait, je vais te donner je sais pas quoi, tu vas gagner au loto, est-ce que cette peur est en fait plus petite que la peur que Dieu se soit à l'intérieur de nous, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus victime, on est autonome, et tout ce que nous faisons...
J'ai l'impression qu'elle est, vachement
petite. Elle est vachement
petite. Mais bien sûr, j'ai l'impression qu'en fait, on se joue de ça, parce qu'on a tellement peur d'accepter
sa grandeur. C'est même rassurant qu'il soit à l'extérieur.
Bien sûr, parce qu'on se raconte des histoires en permanence, et puis du coup, on est victime de tout. Et je pense, d'ailleurs, moi j'en parle énormément, j'invite les gens à prendre 100% de responsabilité de leur expérience, puis tu peux voir toutes les objections qui viennent par rapport à ça, parce que 100% de responsabilité. En fait, j'ai une merveilleuse question par rapport à ça à Toulouse il y a 15 jours. C'était, oui, mais moi, je le vis souvent comme de la culpabilité. Et c'est ça qui se passe, en fait. Quand tu parles de, soit tu es 100% responsable de ton expérience, les gens entendent, tu es coupable d'avoir mal fait les choses, tu es coupable de ta maladie, tu es coupable d'avoir attiré ça dans ton expérience. Puis, il n'y a pas de culpabilité.
Un cancer ou...
100% responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la possibilité d'être libre à chaque instant, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, en fait.
C'est ça.
Et ça, c'est complètement différent. 100% responsable, ça veut dire que chaque instant où tu crois en tes limitations, tu te coupes de toi-même et de cette liberté d'être et de cette vérité et de cet amour absolu qui est là. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça veut dire aussi, par rapport à ta question encore, qu'en fait, c'est de ça qu'on a peur. On a peur de cette responsabilité absolue, parce que cette responsabilité absolue, ce qu'elle veut dire, c'est que tu as la possibilité d'être heureux quoi qu'il arrive. T'as la possibilité de te reconnaître dans ce bonheur que tu es et de ne plus jamais donner aucun pouvoir aux circonstances qui sont celles de ta vie, parce que, et de te rendre compte que le bonheur est à l'intérieur de toi, il n'est nulle part ailleurs, et que tes circonstances extérieures ne te limitent et ne te définissent jamais, ne te diminuent pas et ne te font pas plus grand non plus. Si t'es milliardaire, t'es pas plus important qu'un autre. Si par contre il te manque une jambe, t'es pas diminué par rapport à un autre. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que tu te rends compte, dans ce 100% de responsabilité, que c'est toi qui donnes le pouvoir. Que rien à l'extérieur de toi n'a jamais aucun pouvoir, que c'est toi qui donnes le pouvoir. 100% de responsabilité, ça veut pas dire du coup que c'est toi qui choisis chacune des expériences. Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu vis et des vibrations dans lesquelles tu traînes, c'est-à-dire des croyances et des pensées que tu nourris, en permanence, ben tu vas attirer à toi des expériences ou tu vas en attirer d'autres. Et puis ta vie, elle va être ce qu'elle est. Mais tu peux à chaque instant te reconnaître dans cette liberté absolue, dans ce bonheur absolu qui est là. Et du coup, permettre à la vie de tout changer, en fait. Permettre à ce que tout se change et se manifeste différemment. Et le truc, c'est qu'on va souvent compter les points. On va dire, oui, mais regarde, moi, ça fait 10 jours que je pense comme ça. Ça fait 10 heures que j'ai changé. J'ai 10 jours que je donne plus pouvoir à ces histoires et il n'y a rien qui change. Puis là, on compte les points. Et on dit, et on repart dans l'impression, du coup, la vie ne me donne pas de récompense. Du coup, Dieu ne me récompense pas.
Donc la croyance est toujours là.
Et donc la croyance est toujours là.
Exactement.
Quand on n'a plus d'attachement à la forme, par contre, et qu'on est simplement de, moi, je veux être heureux coûte que coûte, et donc je me reconnais dans ma véritable nature à chaque instant, et je m'en fous si la vie me récompense ou pas, qu'on ne cherche plus la récompense. Pense en fait. On n'est plus dans cette division.
T'imagines aussi, et après on va venir, Jean-Claude,
aux
questions. T'imagines, depuis tout petit, dans le système, dans la société dans laquelle nous vivons, on demande aux enfants de faire plaisir à papa, de faire plaisir à maman, de faire plaisir à l'institutrice. Puis tu sais, c'était une bonne note à l'école, tu vas faire plaisir à grand-mère. Et puis tu sais, grand-mère, elle va te donner un bonbon. Et puis tu sais, la tata, elle va te donner peut-être un petit billet. Et puis elle va t'emmener au cinéma. Et puis, t'as envie de faire plaisir à maman, t'as envie de faire plaisir à papa, t'as envie de faire plaisir à mère grand, enfin, tu vois. Et donc, t'es toujours dans, je vais vous faire plaisir, puis je vais avoir des résultats, et puis l'institutrice, si t'as pas une bonne note, mauvaise élève. Et tout d'un coup, tu sais, t'es le rebut de la société, t'es, papa, maman sont pas contents. Ben voilà, tu vois, c'est ça qui est compliqué de se dire, mais moi, je suis totalement 100%. On parlera de l'enfer et du paradis après.
Mais on peut juste dire un mot parce que mais c'est bon. Hyper simple. L'enfer, le paradis, c'est ce dont je parle. Le paradis, c'est te reconnaître dans ta véritable nature. C'est amour absolu, liberté absolue, 100% de responsabilité. Paradis, ici, là, maintenant.
Voilà, c'est ça.
Maintenant. Et l'enfer, c'est croire tes pensées. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'endroit où on va.
Il faut jamais croire ses pensées.
Non. Ce que ça raconte... Ce que ça raconte, c'est pas nous, en fait. Si te reconnaître dans ta véritable nature, pour moi, c'est le seul but de la vie. Et c'est le seul bonheur qui soit. C'est le seul amour qui soit. Et c'est de là dépend toute ton expérience de la vie, en fait.
Donc, je te coupe, mais quand cette invitation, je me suis dit, tiens, je vais inviter Armel. C'était pas une pensée ?
Ouais, il y a quelque chose de bien plus fort qui vient là derrière.
Mais qui prend la forme de pensée.
Bien sûr, ben oui, il y a une vibration qui est là, il y a un élan qui se manifeste. Oui, bien sûr. Mais je pense que, en fait, tu sens la différence, en fait. Quand tu te sens connecté à toi-même, tu es inspiré, tu sens une impulsion, tu sens un élan qui est là, qui t'habite, et puis tu suis ça. Quand je dis, crois pas tes pensées, c'est, tu peux sentir quand tu te sens limité, quand tu te sens contracté, quand tu te sens, tu te racontes des histoires, tu te mets dans un personnage, tu te définis d'une certaine façon, tu te limites en fait.
Oui, mais alors, pareil, tu vois, je vais prendre un exemple. Supporter de Paris Saint-Germain, supporter de l'OM. Il y a un match de foot, OM-PSG, tu vois. Et les deux se rencontrent, et leurs pensées, tu vois, les portes, elles foutent ton poing dans la gueule à l'autre. Faut pas l'écouter, cette pensée. Pourtant, il y a l'impulsion est là, tu vois, il y a le...
Oh, mais c'est pas de la connexion, ça.
Oui, non, mais j'entends bien, mais eux, ils vont dire, si, je suis connecté, ça boue à l'intérieur de moi, il faut que je le sorte, ça.
En fait, c'est très comique, parce que derrière ça, hein, il y a une profonde croyance que si je mets mon poing sur la tronche de l'autre, eh bien, je vais en fait trouver la libération que je cherche dans l'émotion que je n'arrive pas à gérer, en fait. Et donc profondément, quelque part, c'est ce qui se passe, c'est que comme il y a ignorance de notre véritable nature et que l'autre c'est moi, eh bien ça se manifeste de cette façon-là. Dans la reconnaissance de notre véritable nature, les impulsions, c'est juste extension de cet amour qu'on est en fait, et de cette pure compassion, parce que l'autre c'est moi. Dans l'ignorance, l'autre c'est mon ennemi, donc je dois lui mettre mon poing sur la tronche pour me sentir mieux. Tandis que dans la reconnaissance, il y a « je suis cet amour inconditionnel et je veux le partager à l'autre ». Et le mouvement est complètement différent.
J'avais pris un exemple caricatural.
Non, mais c'est fabuleux de pouvoir justement montrer, donc la question.
Alors, c'est un internaute qui pose une question. Je vais la lire. Merci. Intéressant, Armel, pourrait-elle développer sa façon de vivre sa rage à l'époque ? Était-ce dans ses relations avec les autres ? Aurait-elle quelques anecdotes et comment s'est-elle libérée de ceci ? Merci.
C'est une très belle question. Je pense que là où la colère se vivait le plus, c'était, je pense, avec ma maman, parce que je pense qu'il y avait vraiment cette profonde connaissance, ce profond savoir que ma maman m'aimait inconditionnellement, même profondément en fait. Et donc c'était un espace où je pouvais être moi, je pense. C'est, je me souviens plus de détails. Je sais que je me souviens juste de ça, en fait. Vraiment que je savais qu'à à certains moments, il y avait vraiment des rages profondes qui se vivaient. Et puis, quelque part, souvent, elle en faisait les frais. Et puis, je m'en suis rendu compte, en fait, plus tard, que véritablement, en fait, ça n'a rien à voir avec elle du tout. Que c'était ça. C'était comme s'il y avait... Il y avait un côté très victime, en fait, quand ça se manifestait. C'était, j'ai perdu mon fils, j'y ai bien le droit, en fait, à être en rage. Et je me souviens, en fait, que beaucoup de gens me voyaient comme ça aussi. Je suis la mère qui a perdu son fils, en fait. Il y avait une rage énorme aussi dans le fait d'être vue comme ça, parce que j'avais l'impression d'être enfermée dans une image. Mais moi-même, en fait, je jouais de cette image. Donc, tant que moi, je jouais de cette image et que je me voulais victime de ça et quelque part, j'y trouvais quelque chose, et ben, il y avait toujours quelqu'un pour refléter cette image. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup de sens, évidemment, parce que le monde extérieur reflète tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà. Comment je m'en suis libérée, je sais pas véritablement, parce que je pense que tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une profonde permission, justement. Et il n'y a pas eu nécessairement de définition de cette rage de ça ou cette rage de ça. Je pense qu'on vit une rage intrinsèque au fait de croire qu'on est séparé de notre source, en fait. Et donc voilà, j'ai pas d'exemple plus concret, j'ai rien d'autre qui me vient par rapport à ça.
C'est bien. Et est-ce que tu dirais qu'en fait, ta mère avait créé un espace d'amour suffisant afin que tu puisses vivre cette rage?
Ah oui, moi je pense qu'elle a toujours été, tellement aimante, en fait. Je pense que, mais qu'il a été là depuis toujours, de toute façon. C'était pas nouveau que c'était là, en fait. Cet amour, moi je trouve que mes parents, ils ont, voilà, c'est vraiment eux qui m'ont enseigné l'amour inconditionnel, et j'ai vraiment très fort vu ça ces dernières années. J'ai pu voir, quoi que j'ai fait dans ma vie, quoi que j'ai vécu, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours aimé, ils n'ont pas compris nécessairement tous mes choix dans la vie, mais ils n'ont jamais cessé de m'aimer, en fait. Pour moi, j'étais comme, waouh, en fait, quel enseignement, quelle merveille, véritablement. Quoi que j'ai pu penser d'eux, quoi que j'ai pu croire, en fait, c'était pas vrai. Parce qu'ils ont vraiment toujours été là. Même quand je croyais qu'ils n'y étaient pas, même quand je me suis fait des films, je me suis rendu compte que c'était vraiment les parents dont j'avais toujours rêvé. C'était juste que moi, je voulais pas le voir, en fait. Et c'est fabuleux, parce que là, j'ai vraiment vu, en fait, dans ma relation avec eux, principalement avec mon père, vraiment, combien il y avait d'amour qui était présent, et que je me racontais une histoire qu'il n'y en avait pas. Et que quand je me suis ouverte, moi, à vivre, à me reconnaître dans cet amour et à vivre cet amour, j'ai vu comme cet amour était présent et comme moi j'en avais eu peur et comme moi j'en avais peur, c'était comme oh my god, il y a beaucoup d'amour. Et donc je m'en étais coupée, en fait, en me racontant des histoires par rapport à eux, quelque part, de peur, véritablement, de cet amour et au travers de tout ça. Et alors, quand toi, tu t'en coupes, tu cherches la reconnaissance parce que tu crois qu'il n'est pas là. Mais quand tu t'ouvres, tu vois, mais en fait, c'est là.
Il est là, déjà.
Mais c'est là. Mais ça n'a jamais pas été là, en fait. Ils ont toujours été les parents parfaits. Et toutes les histoires que je me suis racontées n'ont jamais été vraies, en fait. Mais ça change toute la relation. Parce que du coup, tu n'as vraiment plus besoin de les changer. Tu vois qu'ils sont déjà les parents parfaits. C'était juste une question de changer de regard, véritablement, de perspective par rapport à tout ça.
Je propose, Jean-Claude, une pause musicale avec la chanson de ton choix, Jean-Claude.
Rien.
Avant de reprendre l'entretien avec Armel, et même si c'est pas une digression, c'est une parenthèse, mais Jean-Claude m'a demandé de lire un texte parce qu'il a reçu un texte d'une de ses amies, et c'est Nathalie de Benedictis qui a envoyé un texte à Jean-Claude, et Jean-Claude m'a demandé de le lire, et lorsque j'ai lu le texte, j'ai compris pourquoi, et je le trouve très beau. Donc il est adressé à Jean-Claude. Et en même temps à nous tous. Je voudrais partager avec toi ce texte que j'ai écrit voilà quelques années. Il me semble être comme un guide que je relis parfois pour ne pas me perdre. Depuis, moi aussi, un nouvel hôte a pris mon corps, mon esprit. Je suis debout pour moi, pour les autres, pour toi, pour toutes ces personnes qui, par leur amour, me donnent un peu de force, parce que l'essentiel, on le sait, doit venir de soi-même. Te dire je t'aime, mon Jean-Claude, n'est pas dénué de pudeur parce que tu es mon ami. Il est des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables à condition d'oser les tenter. Cette phrase te va si bien. Si les passions et les rêves ne pouvaient pas créer des avenirs nouveaux, la vie ne serait qu'une duperie insensée, n'est-ce pas? Ce passé est devenu mon meilleur ami, la lumière qui m'a conduit jusque-là. Je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais vécu cette maladie, ces aléas, la perte de mes enfants. Je pourrais être nombriliste, égoïste, il n'en est rien. Tout a tourné autour d'elle pendant des années, me prenant tour à tour mon adolescence, mes amis, mes amours, mes enfants. Mais je savais que viendrait le jour où c'est moi qui donnerais le change. On ne peut pas être victime toute sa vie, à moins de le vouloir. Comme il a été difficile de surmonter certaines choses, de me dire que j'avais encore quelque chose à faire, que si j'étais encore là, c'était pour une seule bonne raison. À force de chercher, à force de me battre, à force d'essayer de comprendre, j'ai enfin pu mettre un mot sur tout ce vécu. Vie. La vie est une partie d'échec dont la partie se termine au jour de notre dernier souffle. Qu'est-ce que j'en ai connu et reconnu dans le miroir des regards égarés ? Mais je tenais un trésor dans mes mains, la vie. Pas le droit d'abandonner, pas le droit de m'apitoyer. Le cœur ne mène pas à l'absurde. La raison est là, elle nous guide. Chaque jour est un renouveau, un pas de plus, une page de tournée. J'ai réappris à vivre, à aimer, à pardonner, à l'absurde et au hasard, à contempler la moindre petite chose, à savourer chaque seconde, et surtout à accepter que nous sommes deux dans le même corps. J'ai cherché pendant des années un regard, une lumière, une petite chose pour me guider. Je ne savais pas que c'était en moi. Il suffisait d'un peu de patience, de travail sur soi. Quand la colère n'est plus là, alors on peut enfin avancer sur le bon chemin. Les heures brisées se remplacent toujours. J'ai pris la forme de l'avenir, c'est un chemin tout droit, c'est un grand sourire. Voilà, c'est un texte que Jean-Claude a reçu par mail, c'est ça?
Merci de plein.
Et c'est un très beau texte, voilà. Et quand Jean-Claude m'a dit de lire ce texte, j'ai dit ok. Mais je ne voulais pas le lire tout. tout au début, parce que je pense qu'il, dans tout ce qu'on a dit...
C'est le moment parfait, c'est la fin de la victimisation, la fin de la rage. Quand la rage tombe, ce qui reste, c'est l'amour. Il y a un désir de donner qui est inévitable, de reconnaître qu'il n'y a jamais eu aucune erreur dans l'expérience, et d'oser, c'est, j'entends ça aussi, c'est vraiment fabuleux, quoi. C'est véritablement... Ouais, merci tout plein.
Donc ça fait écho à ce que tu disais.
Tout à fait.
Ça résonne aussi avec la chanson de Yannick Noah.
Tout à fait.
Vraiment une belle chanson.
Ouais, moi j'aime.
Quand tu m'as dit Yannick Noah, j'ai dit waouh, moi aussi j'adore cette chanson. De temps en temps je la mettais, mais pour moi-même j'ai vas-y ose quoi. Tu sais, quand j'osais pas certaines choses, je la mets plus maintenant, mais à une époque je la mettais. Je dis ok, j'y vais.
Ouais. J'ai osé le dire. Yannick Noah est un des personnages les plus aimés des Français. Il est aussi très décrié. Mais ça m'a touché quand tu as décidé de programmer cette chanson. Peu de personnes savent que Yannick Noah est passionné par des enfants qui sont victimes d'une terrible maladie orpheline qui s'appelle la progéria. C'est une maladie qui transforme des petits mômes de 5 ou 6 ans en des vieux personnages.
Okay.
C'est-à-dire l'âge,
les poutres, toutes voilà. Idées, etc., voilà. etc.
Et Yannick et moi avons accompagné Mégane pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle passe de l'autre côté du miroir. C'est pas mon ego que je flatte, mais oser, c'est vachement important. Alors merci. Et puis, l'émission n'est pas terminée, mais merci, merci aussi pour tes paroles de guérison qui me font du bien. C'est normal. On est belges, toi et moi.
Oh, t'es belge, c'est fabuleux.
Depuis quand t'es belge, Jean-Claude?
Je suis né. Mon papa est belge.
Ah, ton papa est belge.
Je suis naturalisé français.
T'étais sans papier pendant combien de temps? T'étais clandestin pendant combien de temps? Je suis sûr que c'est un sans-papier. Oh, c'est encore un sans-papier, celui-là.
Une immense joie, Jean-Claude.
C'est bien. Tu as vu la couleur de ses yeux?
Mais oui, ils sont comme les tiens.
Qu'est-ce que tu as vu?
Moi?
Personne ne t'a jamais posé la question.
Qu'est-ce que j'ai vu?
Qu'est-ce qu'ils ont vu, tes yeux, pour être aussi bleus?
Et tiens, Jean-Claude, qu'as-tu vu pour que tes yeux soient aussi bleus?
C'est elle l'invité.
D'accord, mais tu as les yeux aussi bleus que Carmel. C'est que tu as vu quelque chose.
C'est depuis qu'elle est arrivée.
Bon. Allez, on recommence. Mais quand on recommence, non, c'est la continuité. Donc, merci pour ce texte, c'est vraiment très beau. Merci pour la chanson. Tu parlais de culpabilité.
Ah ouais.
J'aimerais que, si tu veux bien, qu'on parle de la loi d'attraction. Okay. Parce que j'en entends beaucoup parler. Moi, je pense que c'est quelque chose de... de toute façon, on a parlé de nos croyances, quoi. Donc, nos croyances font qu'on va vivre ça, etc. Mais je crois qu'il y a certaines personnes qui, à travers la loi d'attraction, se flagellent et vivent une culpabilité énorme.
Énorme, une indignité, en fait, l'impression de ne pas être capable.
C'est-à-dire que... c'est ce que tu disais. Voilà, j'ai mis ça depuis 10 jours en place, mais je n'ai pas. Donc, c'est toujours l'attente de je reçois.
C'est ça,
en fait. En fait, on reçoit, dans cette, pour beaucoup de personnes, hein, on reçoit encore une fois, de l'extérieur.
Oui, mais c'est aussi qu'il y a une attente de recevoir, en fait.
Oui.
Pour moi, la loi d'attraction, je pense, j'ai l'impression qu'elle a souvent été mal comprise en fait. On croit que la loi d'attraction, c'est à propos de manifester quelque chose dans la forme, manifester des objets, des choses comme ça, et de se valoriser quelque part à travers ça. J'ai l'impression souvent.
Je te coupe, excuse-moi. Mmh. C'est parce que justement, il y a un livre qui s'appelle Le Secret.
Uh-huh.
Je sais pas si tu. Moi, j'ai pas lu, mais j'ai vu quelques vidéos où effectivement, le type, il dit, bon, vous voulez une grosse maison, alors vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Tu vois, comme si la loi d'attraction, c'est toujours déjà un par rapport à l'avoir, et que si on n'a pas la grosse maison, si on habite dans un petit appartement, si on habite une petite caravane, ben c'est que Dieu quelque part il est pas content de nous. Et oui.
En fait, pour moi, c'est le fonctionnement de l'univers est comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que je dis. C'est ce en quoi tu crois, tu en fais l'expérience. Ce dans quoi tu te reconnais, tu en fais l'expérience. C'est-à-dire, tu te reconnais dans la vérité de ton être, c'est ce silence, cette paix qui est là, et toute ta vie, toute ton expérience va être le reflet de ça. Tu te reconnais dans la petitesse, dans les croyances limitantes, dans les conditionnements du passé. Tu vas faire l'expérience de ça, et plus tu continue à baigner dans ses pensées et plus tu vas attirer des expériences comme ça aussi. C'est-à-dire, ça peut être des expériences de peur, de manque, etc., etc., plus t'es coincé là-dedans. La loi d'attraction, pour moi, même quand elle parle d'objets, d'avoir, par exemple, t'as un désir t'as un désir d'une grosse voiture, parce que tu penses véritablement, parce que derrière quoi que ce soit qu'on veuille, c'est pas mal non plus de vouloir ça en fait.
Non,
derrière quoi que ce soit qu'on veuille, ce qui se passe c'est que on veut le bonheur, en fait. Véritablement on veut le bonheur, mais on croit que cette chose-là va nous l'apporter. On ne sait pas que le bonheur est en nous. Donc on va focaliser sur la chose, alors que et on va croire que c'est en focalisant non-stop sur cette chose qu'on va justement vivre cette chose. Le truc pour moi, c'est ce à quoi la loi d'attraction appelle, c'est que au travers de cette chose que tu penses qui va t'apporter le bonheur, tu peux vivre le bonheur maintenant. Donc en fait, la loi de l'attraction, elle ramène constamment au bonheur maintenant, à ce que tu penses que tu vas avoir quand tu auras cette chose maintenant, et à la reconnaissance que tout se passe maintenant, et quelque part à même lâcher le résultat ou lâcher la forme de la chose en fait, pour laisser la vie faire. Donc pour moi, la loi de l'attraction, c'est véritablement simplement la loi selon laquelle fonctionne l'univers, fonctionne le monde, et surtout cet appel à maintenant. À voir que ce qu'on pense qu'on aura plus tard, au travers de la forme, par exemple la voiture, est disponible maintenant, et c'est dans l'être, c'est dans l'émotion que ça nous appelle. Et cette émotion, en fait, ça nous rappelle à nous. Parce que quelque part, quelqu'un qui se sent complètement petit et impuissant et qui se dit « quand j'aurai une grosse voiture, je me sentirai mieux », en fait, quand il pense à cette voiture, il vit cette émotion de l'être. Il vit cette valeur, par exemple. Il se sent vraiment valorisé, il se sent ouvert, mais cette émotion, elle est réelle. La forme, la voiture, elle n'est pas réelle, on s'en fout, ça. Mmh. Mais l'émotion qu'il vit en pensant à ça, elle est réelle. Et s'il reste juste à cette émotion, avec cette émotion, en fait, il se rend compte que ce qu'il veut véritablement avec la voiture est disponible maintenant. Et après, la voiture, elle est plus importante. Alors, il est très possible que le fait d'être dans cette émotion, la voiture se manifeste, ou quelque chose qui reflète ça va se manifester. Mais ce n'est pas l'important, en fait. L'important, c'est... Et en même temps, ça peut aussi nous permettre de nous rendre compte de notre pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir que la pensée crée, que l'émotion est créatrice, que la vibration dans laquelle je me trouve et les pensées que je nourris sont créatrices de mon expérience. Mais de nouveau, c'est à propos de... C'est là maintenant. Mm-hmm. C'est me rendre compte que je suis la totalité de l'univers, en fait, et que c'est disponible maintenant. Et donc pour moi, c'est là que je pense que c'est mal compris, parce que quand on pense que c'est à propos de manifester des choses dans la forme, eh bien on est constamment en train d'essayer d'avoir une forme parfaite, et quand on n'a pas cette forme parfaite, eh bien on croit du coup qu'on n'est pas récompensé, et qu'on a pratiqué tellement, on a pratiqué tellement dur, et je pense que même bien souvent les gens ils se cassent vraiment la tête, parce que c'est tellement plus simple que ça, quand tu te rends compte que c'est juste être heureux maintenant, et c'est à ça que ramène la loi de l'attraction, sois pleinement heureux maintenant, indécendamment heureux, indécemment heureux, et laisse la vie faire. Ouais, c'est un bonheur indécent. Vis un bonheur complètement indécent maintenant, et laisse la vie faire, parce qu'elle s'organise très bien toute seule. Et de toute façon, on n'a pas le contrôle sur la forme des choses. Le seul contrôle qu'on ait, qui est absolu, le seul choix qu'on ait, qui est absolu, c'est d'être heureux maintenant, c'est-à-dire se reconnaître dans le bonheur qu'on est maintenant, ou de croire toutes ces pensées limitantes et conditionnements du passé, et alors de vivre des expériences qu'on dirait négatives.
Oui, oui.
Mais qui, de toute façon, même ces expériences, nous ramènent toujours à nous.
C'est ça. Le plus important, c'est d'aller goûter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et à ce moment-là, tout est...
Pour moi, en fait, si on a une mission sur Terre, ou si Dieu veut une seule chose pour nous, et quoi, que ce soit clair une bonne fois pour toutes, c'est le bonheur maintenant. la seule mission qu'on ait, on peut s'en raconter des tonnes, la seule mission qu'on ait, c'est le bonheur maintenant. Le seul désir de Dieu pour nous, c'est d'être heureux maintenant. Et le seul but de la vie pour moi, c'est de nous reconnaître dans cette plénitude, dans cette vérité de ce qu'on est maintenant. C'est la seule chose.
Quelle que soit l'expérience et l'épreuve que nous vivions.
Au-delà de tout ça, en fait. Ouais, voilà. Complètement.
Alors, peut-être que certaines personnes se posent cette question, et comme ça passe à travers moi, je me la pose aussi. en fait, quand tu dis, voilà, tout est à l'intérieur de moi, et moi, je suis évidemment 100% d'accord avec ça. Tu parlais de la voiture, peu importe que tu aies la voiture, parce que de toute façon, le bonheur, il est là. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de désir de grosses voitures, tu n'as plus de désir de robe, parce que peu importe la robe, tu vois, même si ce sont des haillons, de toute façon, tu seras bien, tu vois, ou qu'on te mette dans une vieille deux chevaux toute pourrie, encore quoi que la deux chevaux, elle a encore tout son charme, une vieille voiture toute cabossée, pas belle, toute pourrie, ou alors la dernière Mercedes, BMW, je sais pas quoi, il n'y a plus de différence pour toi. Ou est-ce que, au contraire, il y avait un philosophe, il s'appelle André Moreau, que Jean-Claude avait reçu ici. Il parlait, alors je ne vais pas comparer les voitures aux femmes, hein, mais il parlait de ses femmes, parce qu'il a plusieurs femmes.
Okay.
Et il disait à ses compagnes, je n'ai pas besoin de toi pour être heureux, mais lorsque tu es là, tu rajoutes à mon bonheur. Est-ce que c'est ça ce que tu vis ?
C'est ça, en fait, c'est que la forme ou l'expression ou l'expérience, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que le gâteau, il est déjà plein, il est déjà délicieux, c'est nous. Et puis après, il y a la cerise, et on peut jouer avec la cerise.
Non.
Et donc, pour moi, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de désir, et je pense que la vie, en fait, nous appelle et nous inspire en permanence, en fait, justement, du fait d'être sourcé comme ça en permanence. Moi, j'ai des projets dans tous les sens, en fait. Et j'adore vivre cette énergie, et j'adore ça, et j'adore être là-dedans. Et en effet, il y a une grande joie à acheter ça, et à sentir, parce que c'est la même chose pour moi, c'est toutes des inspirations, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois véritablement la perfection de la vie dans tous ses mouvements. Ça veut dire que je vois en fait l'adaptation. C'est comme si même mes désirs changent, ce qui m'inspire, mes désirs changent en fonction de là où je me trouve en fait. Ma façon de m'habiller, etc., etc., va changer en fonction de là où j'en suis dans la vie, en permanence. Et je suis passée par une période, il y a des années, où je croyais que pour être spirituelle, il fallait justement refuser tout ça. Et qu'est-ce que je vivais? C'était horrible ce que je vivais à travers ça. Puis un jour, je me suis dit, mais peut-être que c'est pas juste, en fait. Et je sentais, en fait, j'étais dans une coupure de mon humanité, coupure de ma féminité, coupure, 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 renoncement, renoncement, renoncement. Et ça ne fait aucun sens pour moi, le renoncement. Pour moi, c'est plutôt, écoute, connecte-toi à toi, ose. C'est véritablement ça. Ose tous les mouvements qui t'habitent et laisse la vie s'occuper de tout, en fait. Et c'est là que tu te rends compte de la plénitude de ton être. Il n'y a rien à rejeter, en fait. Il n'y a pas à rejeter d'acheter ce vêtement, si c'est ça qui est là dans l'élan. Il n'y a pas à rejeter, je sais pas moi, la voiture que tu veux comme ça, parce que si, parce que là, il n'y a pas à rejeter de vivre dans telle maison plutôt que telle autre. Il n'y a pas à rejeter tout ça. Et quelque part, ça fait partie aussi de se reconnaître dans la plénitude de son être et de vivre avec la forme qui nous est spécifique dans le moment même. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça.
Non.
Ça veut dire que c'est ce qui est là aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est à célébrer parce que c'est ce qui est là aujourd'hui. Et comme c'était à célébrer la forme qui était là il y a 10 jours, comme c'est à célébrer celle qui sera là dans 2 ans. Et c'est juste ça, en fait. Pour moi, c'est véritablement cette célébration continue de toutes ces expressions et de toutes ces inspirations qui sont partagées.
Est-ce que toi, tu vis tout le temps maintenant, ça?
Ouais, je suis vraiment...
Parce que c'est pas une question que je vais te poser, mais...
Mais ça veut pas dire, par contre, qu'il n'y a plus d'émotion. J'ai envie d'être vraiment claire. C'est qu'il y a cette intensité de joie qui est présente en permanence, il y a ce bonheur qui est là tout le temps, et il y a ce... Il y a ça.
Parce que, nous avions rendez-vous avec Carmel à 18h30, je raconte tout. Hein. Carmel, elle m'envoie un message, ah, je serai en retard, enfin, je dis non, je t'attends, etc. Et quand tu es venu en sortant du métro, j'ai senti, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vu ce regard, c'est de la personne, je suis en retard, faut vite que je me dépêche. Mais tu sais, les personnes en retard qui sont... Pas coupable, pas, mais c'est pressé par le temps. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu as vécu ça?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Moi, j'étais dans une grande joie d'arriver.
D'accord.
Et de te retrouver.
Ok.
Non, je ne me sentais pas...
Tu vois, j'ai cru voir ça dans ton regard.
En fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, moi, je suis hyper énergétique. Et donc, ce mouvement, il est hyper naturel pour moi d'être dans. Ça se vit très très fort comme ça. Donc, moi, c'est vraiment ça que je sens, en fait. C'est ce pétillement de vie.
La question. The question. Que sûrement beaucoup de personnes se posent.
Ok.
Qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on ça pour vivre ce que tu vis?
Mais c'est véritablement ce que je dis, à chaque instant se reconnaître dans la vérité de son être ou alors croire les pensées et se couper de soi-même en fait. C'est d'être à chaque instant, d'être dans cette connexion, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui nous habite, à l'écoute de ce qui se vit, de ce qui nous appelle, de nos désirs les plus profonds, et d'oser. Et là-dedans, en fait, toutes les limites et tout ce qu'on pense être autre que ça, tous nos conditionnements du passé tombent et se révèlent alors l'évidence de ce qu'on a toujours été. À chaque instant. À chaque instant.
Oui, mais si la personne, par exemple, elle se connecte à elle, elle ressent une peur. Une peur ou autre chose. Mais ça ressent une peur. Je dis, voilà, ben je vais me connecter à la peur afin de pouvoir vivre pleinement ma présence.
Non, c'est la peur est là, mais pour moi, c'est dans l'instant où on sent la peur, déjà, bien souvent, il y a peur de quelque chose, ou parfois, il y a juste émotion, mais bon, mettons, il y a juste émotion et il n'y a pas peur de quelque chose. Mais c'est l'opportunité, on a un système de guidance qui fonctionne à merveille, en fait. Donc, c'est l'opportunité de sentir peur, déconnexion. Donc, c'est l'opportunité de dire, OK, je suis déconnecté, je peux prendre un moment pour revenir ici, dans ce silence, et me reconnecter à moi-même et d'être juste là. Et quoi que ce soit dont j'ai peur, de toute façon, c'est pas vrai, en fait. Cette peur, ce qu'elle me raconte, n'est pas vrai. Et donc, à chaque instant, c'est de choisir véritablement l'alignement à soi, la reconnaissance de soi. Mais plutôt là, que l'histoire qui se raconte ou l'émotion qui...
Je te coupe, hein, mais parce que je crois que c'est important, ça. Non pas que je te demande un mode d'emploi, mais quoi, en même temps, peut-être. Mais une maman a peur pour son fils. Pour X raisons, hein, je sais pas, peur de l'échec au bac, peur de... parce qu'il vient d'acheter une voiture, d'un accident. La peur est bien là, elle est bien présente à l'intérieur de cette femme. Son intellect lui dit, oui, mais tu sais, t'as écouté Armel, t'as lu tel bouquin, t'as écouté telle émission, depuis le temps que tu fais la spiritualité, tu devrais savoir que, bah, y a pas à avoir peur parce que chacun est responsable de lui-même. Mais sa peur est tellement forte que tu vois, entre ce qu'il y a dans l'intellect, que dans le mental, et à ce moment-là, la peur va bouffer le mental. Comment elle peut faire cette femme, à ce moment-là, même en se disant, je vais me reconnecter à cette présence, et cette présence va faire que je vais me rassurer, mais, Si tout d'un coup elle pense que sa présence, et là à ce moment-là la croyance, sa croyance est que la peur est cette présence. Suis-je clair?
Pas dans la croyance que la peur est cette présence, mais je peux répondre à ta question sans ça de toute façon. Enfin, je sais pas si t'es clair, moi je comprends pas trop ça, c'est juste ça. Ce qui me vient en fait par rapport à ça, c'est quoi que ce soit qui lui vient dans l'instant, eh bien de le suivre en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que dans l'intensité de ça, l'attention est là-dessus. Et si on divertit l'attention et on met l'attention sur autre chose, eh bien, en fait, la peur va lâcher.
Mais je te coupe, c'est aller au bout de cette peur. C'est-à-dire qu'elle se laisse entraîner par la peur et qu'elle aille voir ce qu'il y a derrière ou pas.
Non. De rediriger l'attention ailleurs, en fait. Il y a la peur qui est là, il y a tout ça. Alors, il y a plusieurs choses. Soit peut-être partager juste avec son fils. Va dire, écoute, voilà, je vis véritablement une peur énorme d'être authentique, en fait, une peur énorme par rapport au fait que tu rates ton bac, j'ai tellement envie que tu sois heureux. Et moi, je pense que cette authenticité, cette communication peut apporter énormément parce que aller dire à ce moment-là, je sais que tu vas réussir à ton fils alors que ce qu'elle vit, c'est pas ça, il va le sentir de toute façon. Et donc, voilà, cette authenticité. Ou alors, de vraiment se dire, ok, je sais que cette peur, elle est pas réelle, mais je la vis, je peux pas la nier. Mais je sais que si je suis ce que je sens au plus profond de moi-même, elle va s'en aller. Et de faire confiance à ça, en fait. Donc, c'est se demander, ok, qu'est-ce que je fais là, du coup? Et peut-être qu'elle va faire la vaisselle, peut-être qu'elle va manger une glace, peut-être qu'elle appelle une amie, peut-être que quelque chose qui va simplement lui faire du bien dans l'instant, en fait. Qu'est-ce qui va me faire le plus de bien alors que je vis ça? Et ça peut être aller s'allonger et simplement traverser la peur et rester avec ça. Mais ça peut être aussi aller prendre une marche, aller, voilà, faire quelque chose dans...
C'est prendre du recul, observer ça et se dire, voilà, je ne suis pas la peur. C'est
ouais,
ça?
Je ne suis pas la peur et... Ok, rediriger l'attention ailleurs. Parce que si l'attention reste sur la peur, sans conscience de ça, eh ben, ce qui va se nourrir, c'est la peur. Et du coup, ça va appeler plus de pensées, de peur, et plus d'histoires qui vont se raconter, et ça va se nourrir comme ça. Et ça va faire effet boule de neige, et ça va durer des heures ou des jours après. Avec plein d'autres histoires qui se racontent, plus des histoires du passé, etc., etc. Donc, si on prend conscience de, ok, j'ai pas envie d'être dans cette peur, j'ai pas envie de rester avec ça et avec les histoires qui se racontent, j'ai la possibilité, en fait, de ne pas croire à ça. Et de rediriger l'attention, eh bien, ça va lâcher, inévitablement. Donc, ne pas nourrir, en fait. Je pense qu'aussi, bien souvent, on se dit, il faut faire face à, il faut absolument traverser. Et je pense que parfois, juste faire autre chose, c'est suffisant, en fait.
Et en même temps, toi, ta rage, tu l'as exprimée à l'époque.
Pas dire que ça s'est toujours passé comme ça non plus. Ouais. C'était une expérience intéressante, mais je pense que prendre conscience de, ok, la peur, elle est ok. Ça ne veut pas dire que tu dois la vivre pendant 4 jours non plus, ni 10 jours. Ça veut dire qu'elle est ok, c'est ok d'avoir peur. Et je peux aussi faire quelque chose à ce propos-là. Je pense aussi que ces expériences, elles m'ont permis en fait de véritablement m'appuyer sur quelque chose, une certitude plus profonde en fait de ce qui était là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de donner des raccourcis aux gens. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de passer par là nécessairement. Parce que j'ai vraiment découvert ça en fait, qu'on n'est pas obligé. Faire face, c'est aussi une vieille histoire quelque part. Avoir à traverser tout, avoir à vivre. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus courtes en fait qui peuvent être vécues et qui font que on reste dans cet élan de vie. Et justement, tout devient plus simple, plus fluide et plus facile encore.
Est-ce que tu crois que c'est...
Mais on le sent intuitivement, je pense.
Oui.
On le sent s'il y a juste à s'asseoir pendant un temps avec, faire comme c'est ok d'avoir peur, je vais la traverser parce qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a un cadeau pour moi ici dedans et de juste être là et le vivre. Ou alors si c'est ok, je sais très bien ce qui est encore en train de venir là, et j'ai pas du tout envie d'aller dedans parce que je sais. Et hop, on part dans autre chose. Et ça part. Et je crois que plus on s'observe en fait dans nos réactions et plus on se découvre et plus on sent ça, on devient de plus en plus intuitif.
Est-ce que tu crois que justement, dans notre culture chrétienne, on a été shooté à la souffrance, c'est-à-dire qu'il faut passer par la souffrance afin de mériter le paradis, il faut passer par les épreuves parce que c'est comme ça que Dieu nous éprouve, c'est comme ça que, tu vois, sans se dire, mais c'est maintenant, là, tout de suite, sans que Dieu, il a pas dire, bon, si tu fais ça, non. Mais est-ce que nous, je ne sais pas si les juifs c'est pareil, je sais pas si les musulmans c'est pareil, mais est-ce que tu crois que justement le fait qu'on ait un homme qui a un jour été crucifié, qu'il faut porter sa croix, que c'est même devenu une expression dans notre langage?
Ouais, non, je ne crois pas du tout en ça. Je pense en effet qu'on a été conditionné par ça, on a été quelque part formaté par ça. De même que le sacrifice, par exemple, tu parles de Jésus sur la croix, quelque part, c'est un peu vu comme ça aussi. Donc il y a deux croyances très très fortes. La croyance qu'il faut souffrir pour être heureux. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, ma mère me disait, il faut souffrir pour être belle.
Oui.
Puis c'était comme, ah, c'est pas possible, tu me dis que je peux pas manger ma tartine de choco. Non, mais c'est pas possible, ça. Et le sacrifice énorme aussi, bien sûr. C'est-à-dire que la plupart des gens, souvent dans les gens que je rencontre, ils peuvent pas entendre quand je leur dis mettez-vous à la première place de votre vie. Être absolument égoïste, c'est la chose la plus importante qui soit, en fait. C'est tant qu'on ne se d'ailleurs dans les avions ils le disent, tu dois d'abord te mettre le masque à oxygène si l'avion se crache, parce que si tu le fais pas, tu peux aider personne. C'est la même chose dans la vie, en fait. Donc le sacrifice ou la souffrance, c'est énorme. Mais moi, ce dont je parle, c'est véritablement, on a la possibilité de se reconnecter avec nous-mêmes et en étant à l'écoute de ce qui nous habite, de nos désirs, de nos inspirations, de nos élans quand on est connecté à soi, de vivre tout ça dans la joie, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions qui vont venir, qu'il n'y a pas des choses qui vont remonter, mais c'est possible aussi de les vivre dans cette légèreté, justement dans cette conscience, et de voir, tiens, quand je souffre, c'est ah, ok, je crois encore qu'il faut souffrir pour y arriver, mais c'est ok aussi. C'est ok, je vois la croyance et je peux lâcher. Je voyais la croyance et je peux lâcher, et etc., etc. Et du coup, ça se vit dans un mouvement de légèreté parce qu'il y a conscience que je suis plus obligée de vivre ça, en fait. Il y a conscience que je suis pas obligée de continuer à croire qu'il faut souffrir pour arriver à quelque chose. Et même qu'il faut arriver quelque part. Que quelque part, dans l'instant, la destination, c'est ça. C'est maintenant. Et ce qui se passe là maintenant, c'est la destination. Et dans le fait de savoir que c'est la destination, il n'y a déjà plus d'erreur, en fait. Il ne peut y avoir une erreur dans l'expérience que quand il faut arriver quelque part. Quand il faut arriver nulle part, que la destination c'est maintenant, tu ne peux pas faire un mauvais choix. Donc tu peux pas faire une erreur non plus. Mais tu peux constamment apprendre de ce que tu vis. Tu peux te rendre compte, tiens, j'aime pas cette expérience, j'ai plus envie de la vivre. Et tu peux faire comme, ok, qu'est-ce que je crois qui fait que je vis ça? Et tu vois, ok, je crois ça. Ok, maintenant je suis consciente de ça. Je veux plus y aller. Et donc du coup, la fois d'après, quand le même truc revient, parce que ça va revenir, ben, y a conscience. Et peut-être qu'il y a de nouveau partir dans le même bazar, et puis se faire comme, ah my god, j'ai été prise dans le truc. Ok, il n'y a pas culpabilité, il n'y a pas flagellation, il y a, ok, j'ai été prise dans le truc. Et donc tu vois en fait qu'il y a une fluidité dans le fait de voir que je vis ça, c'est ok, je vis ça, c'est ok. Et je peux apprendre de chaque chose, parce que en même temps, j'ai envie d'être heureuse, c'est la chose la plus importante pour moi. Et donc au moment où je vois que je suis partie dans la croyance à nouveau, dans le même cycle, dans le même schéma, le moment où je m'en rends compte, c'est l'opportunité d'accepter que je suis innocente aussi. C'est pas l'opportunité de flageller et puis de faire comme, ah, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es encore tombé dans le même truc. Donc tu te rends compte que chaque instant, c'est vraiment une invitation à cette innocence. Et plus tu renoues à ça, et plus tu le vis vraiment dans cette innocence et dans cette légèreté. Et donc il y a vraiment un grand amour, une grande compassion pour soi-même, en fait, qui se construit et qui se vit véritablement de plus en plus profonde.
Mais il faut quand même sortir de cette croyance que nous sommes nés du péché. Qu'il faut sortir de cette croyance que Dieu, que Jésus est mort
pour nous,
pour nos péchés. Il a pris le péché, tu vois, du genre humain. Tu vois, il faut quand même sortir de toutes ces croyances. Ça fait, c'est séculaire, c'est millénaire maintenant chez nous. Hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Et quand tu parles, voilà, il faut toujours se recentrer sur soi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à ne plus te désaxer, ne plus te décentrer? Tu n'as pas la réponse à ça. Comment ça, t'as pas la réponse?
Mais pour moi, déjà, ces dernières années, cette vie, ça a été totale dévotion à cette présence, en fait. Et aujourd'hui, c'est toujours ça, même si ça ne se vit plus dans l'impression d'une dévotion, en fait, c'est inévitable, parce que cette vie, c'est que du service à ça, en fait, c'est comme ça que ça se passe, mais il n'y a pas l'impression non plus d'être au service de quelqu'un, de quelque chose, de quoi que ce soit, il y a juste la vie qui m'anime au plus profond de mon être, avec tous ces désirs, avec tous ces projets, avec toutes ces inspirations, avec toute cette joie qui se partage de la façon dont ça se partage, et donc... Et donc pour moi, en fait, quand le désir le plus profond de l'être, c'est d'être heureux, c'est de se reconnaître dans sa véritable nature, c'est inévitable qu'il va vivre ça. Et du coup, l'attention vers le reste, même si ça y va parfois, ça y va, ça revient. Ça y va, ça revient, mais c'est quasi instantané, en fait. Ça ne reste pas. Ça dure peut-être quelques minutes, et puis boum, ça éclate. Il n'y a jamais aucun mouvement qui reste, en fait. Et c'est ça qui se passe ici. Ça ne veut pas dire que ça part plus jamais. Ça veut dire que ça ne reste véritablement jamais et que c'est hyper rapide, en fait.
Quand tu dis c'est ça, ce qui se passe ici, lui ici, c'est ton corps, c'est quoi?
Ouais, c'est chez moi.
C'est chez toi. C'est pas commun que des personnes disent ici. Tu vois, c'est ce qui se passe ici. Il y en a qui se passe en moi. Toi, tu dis ici.
Ouais, là maintenant.
Tu t'identifies plus à ton corps?
Si, aussi. Enfin, je veux dire, mais pas. Je pense que la connaissance est tellement profonde d'être tellement plus que ça. Pour moi, c'est Armel, c'est l'univers, en fait. En fait, c'est les deux. Pour moi, c'est juste Armel. Et en même temps, juste Armel, c'est l'univers entier. C'est la totalité.
C'est-à-dire qu'Armel, forme Armel, c'est-à-dire féminin, féminine, et des cheveux là, tu vois, une robe,
etc.
Mais pour toi, ce n'est qu'un véhicule auquel tu ne t'identifies que partiellement, c'est ça ou pas?
Moi, je le vis même pas comme ça, mais cette conscience est vraiment très profondément là. Je ne le vis pas comme ça, je le vis pleinement en étant moi. Et en même temps, il y a profondément ce savoir, cette connaissance, cette conscience, et même l'expérience, c'est l'univers aussi. C'est l'univers qui se vit à travers ça, ouais, c'est ça.
À travers ça, c'est ça. C'est ça qui, tu vois,
c'est comique parce que moi je m'en rends même pas compte.
Tu t'en rends même pas compte, mais tu vois, je veux dire, ça, hein, tu vois, c'est ça. Et tu dis à travers ça, comme si tu avais un détachement et que, je veux pas dire que tu es du dédain, mais que tu vois qu'il y avait.
Non, parce que moi je m'aime profondément.
Non, mais
je me suis jamais senti, c'est ça le truc en fait.
J'entends bien.
Je me suis jamais senti aussi humaine qu'aujourd'hui. Véritablement, je me suis jamais senti aussi profondément humaine.
Mais tu vois, quand tu dis à travers ça, c'est. Ça m'interpelle. Voilà.
Comique.
Voilà. C'est-à-dire que lorsque tu te regardes dans la glace, tu te coiffes quand même ou tu te dis je m'en fous, je passe comme ça parce que ce n'est que ça et que Armel c'est bien autre chose.
Non non non, il y a pas du tout de dédain, de s'en foutre en fait.
C'est ça.
Il y a
un profond
amour en fait, vraiment un amour qui n'a jamais été aussi fort pour toute cette expression que je suis, pour comme je dis vraiment une humanité qui n'a jamais été aussi aussi totale, aussi présente et aussi belle pour moi, véritablement. Dans mon expérience, c'est moi d'ailleurs, j'ai jamais eu autant envie de dire aux gens combien le monde est réel pour moi, combien cette humanité est importante et profonde et est à chérir.
Alors là, je vois qu'il y a une question aussi d'une internaute, d'une téléspectatrice, mais je crois que ça sera important après de revenir au fait que le fait de se reconnecter à ce que nous sommes dans la source, c'est être le plus humain possible. Parce que beaucoup de personnes pensent que ça y est, les gens sont barrés, ils sont même plus, Bouddha, des grands éveillés connus, on se dit, mais ils étaient tellement barrés qu'on peut même plus les atteindre, quoi. Alors qu'en fait, non, ils sont en fait de plus en plus humains. Mais on en reviendra, tu vas nous dire ton expérience, et nous allons lire la question de Sorine André, qui est une animatrice de la radio, la web TV.
Okay,
non pas la radio, sinon je vais... J'apprécie beaucoup la simplicité d'Armel. Et c'est une très belle manière de parler de la loi d'attraction. Alors j'ai peut-être coupé cette partie car j'ai une mauvaise connexion Internet. Armel pourrait-elle nous expliquer son parcours qu'il a mené à faire des conférences? Comment ça a démarré et comment elle a vécu cela dans sa vie personnelle? Bise.
Ben pour moi ça a commencé quand je me suis mariée en fait avec mon mari, je vivais dans une j'ai passé du temps dans une communauté spirituelle. Et dans cette communauté, je me suis mariée et j'avais eu une vision que j'allais voyager. J'avais reçu une danse. Mon mari, il était musicien et j'avais eu cette vision qu'on allait voyager tous les deux et partager la danse et partager sa musique en fait.
D'accord, excuse-moi, que tu dis. Tu serais danseuse, c'est ça?
Je suis pas danseuse. Enfin, de nouveau, je me définis dans rien du tout. Mais j'ai renoué avec la danse très très fort il y a des années.
Okay.
Et puis il y a 5 ans, quand je suis juste avant d'arriver dans cette communauté, quand j'ai rencontré un enseignant du cours en miracle en fait en Belgique, qui était là avec une amie. Quand j'ai vu cette amie, j'ai eu un wow. Je sais pas ce que c'est qui se passe là, mais c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et puis durant ce week-end, tout a changé en fait, et j'ai tout lâché, et j'ai senti, c'est ça que je veux suivre. Et je pratiquais de la danse, et j'avais l'impression, j'avais la sensation que j'allais en fait recevoir une danse, ou que j'allais créer, je savais pas trop comment, une danse qui allait me venir. Et ils m'ont demandé d'animer un atelier de danse justement dans ce week-end que eux offraient, et je trouvais ça fabuleux. Et en effet, quand j'ai dansé, j'ai senti que j'allais recevoir une danse qui était très méditative et très douce, et que j'allais commencer à l'offrir.
Dans 5 minutes, Armel danse devant la caméra, je vous le dis. Hein. C'était pas prévu, mais on va pousser la table.
Et puis, ce qui s'est passé, donc 2 mois plus tard, je suis allée dans cette communauté. J'ai été faire du volontariat en fait pendant plusieurs semaines.
Okay.
Et en effet, bien souvent, je sentais le désir d'aller danser. Donc, il y avait un énorme garage et j'ai en effet mon espace de danse. Et dans ces moments-là, en fait, il y a quelque chose qui m'a complètement emmenée, en fait, qui m'a complètement emportée. Je me sentais portée, je me sentais danser. J'avais l'impression de ne plus du tout faire le mouvement. Je découvrais quelque chose qui était fabuleux, où justement le corps était vécu. Je n'étais plus que l'instrument de la vie qui dansait. Et c'était fabuleux de vivre cette expérience. J'aimais tellement, je sentais une tellement profonde connexion à moi au travers de ça que je dansais tous les jours, tout le temps. Dès que je pouvais, je dansais. Et c'est comme ça que j'ai reçu, par exemple, cette vision avec mon futur mari. Et puis, j'ai eu cette même vision qu'on allait se marier, je l'ai partagée. Et puis, pareil, ben voilà, ça s'est fait. Donc une fois qu'on s'est marié, après on a commencé à voyager Et j'étais en comme il était américain, ben voilà, on voulait vivre ensemble, donc j'ai commencé un processus d'immigration. Et puis pendant ça, en fait, on pouvait pas être aux États-Unis, et donc on a commencé à voyager. Et puis comme notre relation, elle était véritablement vécue dans cet esprit de reconnaissance de notre véritable nature, d'éveiller notre véritable nature. Nos vœux, c'était je promets de voir toujours l'innocence en toi, de te reconnaître dans ta véritable nature, et de soutenir cette reconnaissance à chaque instant, en fait. Et donc, quelque part, on avait envie de partager notre expérience, justement, de notre relation et de ce qu'on vivait, et puis en même temps de partager tout ça. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir les amis avec lesquels j'étais voyager en Belgique, et là, ils ont donné une rencontre, et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça te dirait pas, toi, de donner une rencontre et de visiter, et puis de venir nous voir et de partager tout ce que vous vivez. J'étais comme, ouais, génial, ça venait répondre vraiment à l'élan qu'on sentait, et on n'avait pas encore reçu d'invitation, et puis voilà, tout s'est mis en place comme ça. C'est une amie, donc notre premier week-end, ça a été en Belgique, le 2 ou 3 janvier 2010, et puis on a donné un week-end comme ça, on a partagé notre expérience, j'ai offert de la danse, il y avait de la musique, il y avait tout ça, et ça s'est mis en place comme ça. Ça s'est fait une fois, puis ça s'est fait deux fois, il y a eu quelque chose en France plus tard, il y a eu une retraite qu'on a offert en Irlande, et donc il y a eu la même chose en Suède, on est parti au Costa Rica pendant plusieurs mois, enfin voilà, il y a eu tout ça cette année qui s'est mis en place, et puis jusqu'à ce que j'immigre aux États-Unis, et donc tout a démarré comme ça. Et puis chaque année, il y a eu à chaque fois quelques rencontres, d'abord avec mon mari, on était invité au Canada, on a été invité sur l'île de Vancouver, on a voyagé à travers les États-Unis. Moi, il jouait de la musique, je me suis mise aussi à écrire des chansons, parce que j'ai toujours voulu chanter. Je me suis mise à écrire des chansons, je me suis mise à chanter avec lui, on a partagé ça ensemble aussi, et on a voyagé comme ça, d'abord tous les deux, et jusqu'à... Enfin, ça n'a pas arrêté de continuer, en fait, depuis 2010. La vie a fait que ça s'est mis en place. J'ai rien fait pour, jamais. J'ai jamais fait aucune pub, et tout s'est mis en place, et les gens sont venus de plus en plus au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que ça s'ouvrait, que ça se reconnaissait. Ça s'est mis de plus en plus en place pour arriver en France de façon assez fulgurante l'année dernière, avec deux mois de tournée et quasi rempli. Et puis une année qui n'a pas arrêté, quoi. Donc voilà. Et pour moi, tout ce qui fait du sens pour moi, c'est de laisser faire la vie. J'ai jamais fait de pub, j'ai pas du tout envie d'en faire, mais la vie fait les choses et met les choses en place, et je suis les invitations, en fait. Et je dis oui quand ça résonne, et quand il y a cette explosion du cœur, je peux pas la retenir. Et quand ça ne résonne pas, je dis non, tout simplement, parce que je fais confiance à ça, en fait. Je fonctionne simplement sur le ressenti, je fonctionne pas, j'ai pas de pensée, j'ai pas de jugement, j'ai pas de préférence par rapport à quoi que ce soit. Je fonctionne en fonction de s'il y a cette explosion du cœur, j'y vais.
J'aurais dû prendre comme chanson Angelo Branduardi, va où le vent te mène, va où le vent te mène, va.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret. sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ses canaux dormir ses vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'Hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière.
Alors, c'était Invitation au voyage de Baudelaire, chanté par Léo Ferré. Voilà, et ça, c'était une illustration musicale choisie par Jean-Claude.
Parce que j'ai vu sur le site d'Armel qu'elle parlait d'Invitation au voyage. Tu te souviens?
Non. C'est fabuleux.
Je cherche.
Okay.
Tu cherches et tu vas trouver. Oui, donc ton parcours. J'aimerais bien que tu développes ton parcours.
Mais en fait, ce qui m'était venu alors que je parlais, c'était le sans effort, véritablement. Il n'y a pas besoin de faire d'effort pour arriver quelque part, en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des élans, il y a « oh, j'adorerais faire ça », mais en même temps, la vie va faire. C'est-à-dire que, par exemple, pour compléter la question de l'auditrice
Sorine,
c'est la loi d'attraction, c'est vraiment se rendre compte en fait qu'on est le créateur de notre expérience à chaque instant. Du coup, on n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit, on n'a pas besoin de faire en sorte que la vie aille dans une certaine direction, on a juste besoin d'être heureux. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai pratiqué ces dernières années. La seule chose qui m'importait, c'était d'être heureux, c'était de me reconnaître dans ma véritable nature et de me connaître dans cette liberté inconditionnelle, de ce bonheur inconditionnel qu'on est, et la vie a fait le reste. Et en fait, tu te rends compte que quand tu te reconnais en tant que créateur de ton expérience, c'est-à-dire 100% de responsabilité, et que la seule chose que tu veux, c'est le bonheur, tu vois que la vie, en fait, met tout en place d'elle-même. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour arriver quelque part. T'es déjà là. Et le reste, c'est que du bonus de nouveau. Et du coup, tu n'essayes pas de faire en sorte que les choses aillent dans une certaine façon, mais tu suis ton intuition et ton inspiration à chaque instant, et du coup, tu suis chaque mouvement tel qu'il est là. Et ça, c'est véritablement, je pense, une expérience que peu connaissent, en fait, ce sans effort et le fait qu'il n'y a pas besoin d'essayer d'atteindre un but, que chaque instant, pour moi, quoi que je fasse, chaque instant, c'est la joie. C'est pour la joie du moment et tout est déjà complet là. Et quand la forme des choses, par exemple, voilà, si tu mets un projet et que le projet se concrétise, mais c'est génial que le projet se concrétise. Mais dans l'instant, la joie, elle est déjà vécue. Et le projet, il est déjà vécu maintenant, il est déjà complet maintenant. Dans cette joie, dans cette collaboration qui se passe, dans tout ça. Et après, ben voilà, c'est encore plus fabuleux de vivre ça.
Parce que t'as...
Donc c'est vraiment dans le concret de l'expérience, c'est ça que...
Ouais, parce que ta création de ce que tu es est claire et clarifiée. Mais par contre, puisque nous parlons de la voie d'attraction, peut-être que, eh bien, nous faisons une demande, nous avons envie de créer je sais pas quoi, et puis après, comme on l'a pas au bout de 2-3 jours, on se dit « Ah, mais j'ai peut-être pas fait la bonne demande », donc on redemande quelque chose d'autre dans notre propre création, et puis ça devient un imbroglio
de... C'est ça le truc, c'est que je n'ai pas du tout l'impression de faire aucune demande, en fait.
Oui, mais c'est ça, tu vois, c'est qu'en fait, peut-être qu'on est toujours en demande, puis comme on n'a pas, on redemande,
ouais,
et puis après,
ça.
En fait, on sait plus, quoi, parce que les pièces du puzzle, elles sont...
Et c'est fabuleux ce que tu dis, parce que je me suis rendu compte à un moment dans ma vie, il y a plusieurs années, je me suis rendu compte que ma relation à Dieu, c'était une relation de demande. En fait, c'était donne-moi ci, donne-moi là, donne-moi, même donne-moi la confiance, hein.
Mais donner.
C'est ça, c'était jamais un don en fait de moi, c'était un demande. Et pour moi aujourd'hui, la seule prière qui soit, c'est une prière de gratitude ou c'est une prière de j'ai aucune idée, montre-moi. Mais c'est de toute façon la seule véritable prière qui soit, c'est je veux être en toi, je veux me reconnaître dans toi. Pour moi, c'est ça la prière, et laisser la forme être ce qu'elle est. Et c'est ça que je pense qu'il n'est pas compris dans la loi d'attraction, et c'est ça où moi, en fait, j'ai jamais compris ça, où mon expérience n'a pas été ça. Mais je vois que mon expérience est celle de la loi d'attraction, que c'est en effet la loi d'attraction qui gère tout ça. C'est que la vibration dans laquelle tu es et comment tu te reconnais dans ta véritable nature amène à toi tout ce dont tu as toujours rêvé un jour. Mais chez moi, il n'y a pas la recherche, je veux absolument cette forme-là dans ma vie. En même temps, il y a plein d'intuitions. Ah tiens, ce serait génial de faire ça. Ah tiens, je suis inspirée par ça. Ah tiens. Et puis ça, ok, on va voir comment ça se met.
Et tu l'as.
Complètement.
Je crois qu'il y en a un, il est venu il y a 2000 ans, il a dit que ta volonté soit faite.
Exactement, hein? Exactement. Et ça l'a amené sur la croix, parce que c'était juste aussi pour lui de se laisser aller dans cette direction-là. C'est comme mon fils qui est mort, c'est la même chose en fait. C'était son chemin, c'était sa décision à lui. Et donc Jésus s'est pas sacrifié pour nous en fait, c'était ce qu'il voulait lui. Il avait vécu sa complétude à travers ce qu'il nous avait donné. Et là maintenant, le point d'orgue de son enseignement, c'était de partir. Comme mon fils, le point d'orgue de son enseignement pour moi, c'était de partir. C'était pour me montrer cet amour inconditionnel, que l'amour que je découvrais, que je vivais, n'était pas dans la forme Gautier, elle était au-delà de ça. Et pour me reconnaître à ça et me reconnecter à ça, il devait partir. Donc il n'y a pas... C'est ça, il n'y a personne qui se sacrifie jamais, en fait.
Tu deviens connecté à ça entre Jésus et Gautier maintenant.
Ben oui, écoute, ouais. Alors que je t'en parle.
Non, mais ça s'est vu dans tes yeux, la façon dont tu t'es exprimé. Il y avait quelque chose de... Jésus et Gautier, tu vois, même combat. Ouais, non, c'est très bien. Non, c'était très beau.
Mais pour moi, c'est fabuleux, parce que j'ai vraiment découvert, en fait, à travers les deux. Parfois c'était à travers l'un, je comprenais l'autre. Parfois c'était à travers l'autre et je comprenais l'un. En fait, je pouvais voir, et je trouve ça fabuleux véritablement, parce que c'est vraiment ça, à ça que j'ai été reconnectée, par l'un et par l'autre.
Ah ouais.
Mais ils sont le même, tu vois. Je veux dire, ils sont le même, c'est la même présence, c'est la présence que je suis, que tu es, que nous sommes tous, de toute façon. Après, tu vas mettre un nom qui va résonner. Et donc, c'est ça qui est fabuleux, c'est que chaque personne qui croit en quelque chose, quoi que ce soit qui résonne pour, la vie l'utilise pour reconnecter cette personne à sa véritable nature. Pour moi, ça a été Gautier qui m'a ramené à Jésus. Quand j'étais petite, c'était Jésus qui était cette présence. Et puis ça a été ma marraine quand elle est décédée, et que Jésus, je l'ai un peu laissé de côté, et que j'étais plus dans le côté hormonal des choses. C'était ma marraine qui est décédée à cet instant-là, et qui quelque part était quelque chose que... Et j'ai continué en fait à je parlais déjà au sans forme, je parlais déjà au-delà de la mort. Il y a toujours eu quelqu'un comme ça dans ma vie. Et donc je pense que quelle que soit la forme qui nous est chère, il y a des gens, ça va être les êtres de la nature, ça va être des guides spirituels, ça va être des arbres, ça va être un chien, ça va être... Peu importe, il y a toujours une présence, je pense, dans notre vie. Et si on ne la juge pas et qu'on voit que c'est simplement la façon dont la vie nous enseigne qui on est véritablement, et qu'on ne prenne pas la forme non plus pour... quelque chose à l'extérieur de nous qu'on voit véritablement, c'est la manifestation extérieure, un symbole extérieur de cette présence que nous sommes. Et donc ça nous ramène à quoi ? À voir qu'on n'est pas séparés, que cette présence c'est nous. C'est la même chose pour Armel, pour tous les gens qui viennent me voir. C'est pareil en fait, Armel c'est un symbole de ça. Et l'invitation que je fais à travers toutes ces conférences, c'est de se reconnecter à soi. C'est pas de se connecter à Armel, mais le symbole Armel peut être utile et utilisé, je pense, aussi comme ça. Il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent, quand je me sens déconnectée, je pense à toi, je suis tout de suite connectée. Mais oui, mais c'est fabuleux. Le jour où cette connexion va être reconnue comme étant juste toi et totale, le symbole Armel, il va tomber. Et en même temps, tout ce qui reste, c'est quoi ? Ben, cette profonde gratitude. Et c'est fabuleux. Et c'est ça dans tout. Par exemple, dans mon mariage, on a divorcé, mais c'est tout ce qui reste, c'est ce pur amour et cette gratitude pour avoir partagé justement ça. Ce soutien continuel de l'être qu'on est, en fait. Et tu avais envie justement que je revienne à cette profonde humanité.
Alors,
et...
juste avant que tu en reviennes à cette profonde humanité... Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un collectif ? Non, je rigole, mais est-ce que, d'après toi, peut-être à ce moment-là, changer ce terme de loi d'attraction ? Parce que l'attraction, ça fait penser à l'aimant, tu vois, c'est qui t'attire quelque chose à l'extérieur de toi pour que ça puisse... Peut-être qu'il faudrait changer ce terme « attraction ».
Mais moi, je pense qu'on pourrait voir véritablement résonance. C'est que
la loi de résonance.
Tout.
Ça résonne mieux chez toi. La loi de résonance.
Moi, je parle. En fait, c'est rare que je parle de loi d'attraction. C'est parce que cette personne a utilisé ce terme-là. Mais moi, je vais plutôt dire que c'est la non-interférence, en fait. La vie n'a pas besoin de nous, en fait. Elle fonctionne absolument bien.
La non-interférence.
Bien.
Ça, c'est très beau.
Elle fonctionne absolument bien toute seule. Il y a une harmonie qui est naturelle. C'est nous l'harmonie. C'est le sans effort. On est ça.
La non-interférence.
Il n'y a pas besoin de nous.
Exactement.
C'est nous qui utilisons la vie.
Qui voulons constamment interférer et essayer de mettre notre grain de sel et dire « Ah, ce serait mieux si c'était comme ça. » Mais en fait, on n'en sait rien ce qui serait mieux. La vie, elle est déjà parfaite à chaque instant.
Que ta volonté soit faite.
Exactement. C'est ça. Et là, tu te rends compte, hein, dans tout ce dont je parle, que la volonté n'est pas extérieure à nous. Que la volonté de Dieu et la mienne sont la même.
C'est ça.
Bonheur inconditionnel. La forme des choses importe peu. Dès qu'on se préoccupe de la forme, c'est fini. On est sorti de ça.
Oui, mais... mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Mais il ne nous a jamais abandonné. On l'a abandonné en voulant être autre chose que ce qu'on est.
Ne complète pas. Je remets ma vie entre tes mains. Tout est dit.
J'aime bien les petites interventions de Jean-Claude. Donc allez, loi d'attraction, non-interférence, ça c'est très joli. C'est très beau. Enfin, ça me parle bien. Oui, j'aurais aimé que tu continues sur cette plus grande humanité que tu vis. Voilà. Ne pas se dire voilà, parce que je sais pas si le mot éveil te parle ou pas du tout, ça te parle pas. Reconnexion.
Oui, ça te parle reconnexion, reconnaissance.
Reconnaissance.
Bien sûr.
Une fois que tu es dans cette reconnaissance, dans cette reconnexion, certaines personnes pourraient dire ça y est, elle est barrée, tu vois, mais raconte-nous justement que tu te sens encore plus dans raconte-nous une histoire.
En plus, si on continue, je risque d'aller te mettre au lit avec ça.
Ouais, bah, tu vas nous la chanter. Alors. Parce que tu as des chansons qui te viennent.
Oui, oui, tout à fait. J'en ai écrit une il n'y a pas longtemps, d'ailleurs.
Avant que tu répondes, peut-être que nous aurons une surprise à la fin de l'émission. Peut-être que Armelle, si elle a envie, si tu en as envie, tu pourras nous pousser la petite chansonnette.
Okay,
mais bon...
Voilà.
Il y aurait quand même plus ça.
Ok, on verra ce qui vient.
Ouais.
En fait, comment profonde humanité, mais je peux même pas dire que j'ai cherché quoi que ce soit. Je me suis vraiment rendu compte au cours de ces derniers mois profondément comment ça s'est encore plus approfondi et adouci et intégré. Et j'ai découvert moi-même, en fait. Je continue de me découvrir à chaque instant là-dedans. Pour moi, ce qu'on est, c'est une expansion constante. On ne s'arrête jamais. L'être qu'on est en expansion permanente. Il ne va jamais s'arrêter.
Comme l'univers.
Exactement. Mais on est cet univers.
C'est ça.
Donc en fait, ce que j'ai vécu, c'est pendant un temps, il y avait quelque chose de beaucoup plus... Il n'y a personne, il n'y a pas de choix, il n'y a que ce qui est. Et aujourd'hui, ça ne résonne plus du tout. Quelle que soit la façon dont ça se passe, en fait, ce qui se vit, c'est Armelle. Il y a décision, il y a choix, il y a tout ce que je vibre. C'est mon expression, c'est pas l'expression de quelqu'un d'autre. Ça se vit comme ça, ça se parle comme ça, ça se ressent comme ça, ça se manifeste comme ça. Je me reconnais dans qui j'étais quand j'étais petite. Du coup, pour moi, cette expression, c'est profondément Armelle. Avec tout ce que je vis, quand j'étais petite... Je faisais de l'impro en permanence, en fait. J'étais constamment en train d'amuser la galerie. Et aujourd'hui, ça revient très, très fort. Mais vraiment très, très fort.
Petit clown.
Oui, je travaille d'ailleurs sur un one-woman show, en fait.
Ah oui?
Je l'ai écrit, et puis voilà, j'ai rencontré quelqu'un ici à Paris. On travaille sur... Enfin, voilà, là-dessus, ça se met en place. Voilà, ça va se mettre. C'est... De nouveau, je fais rien pour se mettre, mais tout se met en place. Les gens viennent me rencontrer, j'en rencontre d'autres. Il y a tout qui se met. Et cette expression, pour moi, c'est ça. C'est que j'ai rien cherché à faire, mais quand j'étais petite, j'étais comme ça. Et puis aujourd'hui, je renoue avec ça, avec cette énergie très, très fort, en fait. Et donc, pour moi, c'est juste Armelle. C'est juste Armelle dans tout ce qu'elle a été, dans tout ce que je connais d'elle, dans tout ce que je connais de moi. Donc c'est ça, cette humanité profonde, c'est qu'en même temps, j'ai jamais autant rencontré les gens dans ce qu'ils sont, parce que je les vois tels qu'ils sont véritablement, je les vois dans ce pétillement, je les vois dans cette joie, je les vois dans qui ils sont. Et en même temps, pour moi, c'est comme si cette humanité se révèle encore plus au travers pourtant de voir au-delà des différences, au travers de voir au-delà de ce qu'on pourrait appeler des défauts ou des choses. Il y a quelque chose dans cet amour inconditionnel, il y a une reconnaissance de l'être qui se fait, qui est profonde et qui révèle encore plus l'être qu'on est. Donc au travers de cette acceptation de notre innocence profonde et intrinsèque à qui on est, eh bien, il y a... Je sais pas comment mettre un mot, en fait. Il y a un moment où t'arrives plus, quoi. Tu vois, t'arrives plus, mais c'est...
C'est là.
Ouais.
Est-ce que,
voilà.
Est-ce que c'est...
C'est très concret dans l'expérience, si j'ai envie de dire aussi.
Ouais.
C'est que ce que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est hyper concret. Donc je me retrouve aussi dans ce côté très cartésien et rationnel que j'avais dans toutes mes années d'adolescence, par exemple. Donc c'est la petite fille qui rencontre l'adolescente, qui rencontre la mère, qui rencontre la femme, qui rencontre le sang forme, qui rencontre toutes ces... qui se vit dans toutes ces expressions.
C'est la chanson de Michel Jonas, Uni vers l'Uni.
Exactement, c'est véritablement joli, ça. Ouais, tout à fait.
Et c'est cette notion d'enfant intérieur que tu as reconnecté en même temps. Je ne sais pas si ça te parle, cette notion, ou pas. Si ça ne te parle pas, on met la poubelle.
Je sais au-delà de ça, mais parce que je pense que ce qu'on touche dans l'enfant intérieur, c'est l'innocence et la pureté de l'être qu'on est. Et on l'a appelé l'enfant intérieur. Mais ça n'a rien à voir avec l'enfant. J'ai eu l'occasion de faire justement une rencontre individuelle avec quelqu'un. Il y a un audio que j'ai mis sur internet, justement, que j'ai mis sur mon Spreaker, qui parle justement de ça. Parce que la personne, elle reconnectait avec son enfant intérieur, mais l'amalgame qui était fait, c'était reconnecter avec la petite fille blessée. Et donc moi, je l'ai invitée, je dis, si tu lâches l'histoire de la petite fille blessée et que tu rentres uniquement en expérience, avec l'expérience directe de l'enfant intérieur que tu contactes là, de l'enfant que tu contactes là, de la petite fille, rentre en contact avec la petite fille là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passait, c'était, il n'y avait pas d'histoire en fait. Il n'y avait pas de blessure, c'est ça qu'elle a découvert, il n'y avait pas de blessure. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de blessure, il y avait juste une grande pureté qui était là et quelque chose qui se déposait. Et donc c'était merveilleux qu'elle puisse utiliser le symbole de l'enfant intérieur, le symbole de la petite fille, et qu'elle puisse lâcher les histoires qui se racontaient par contre par rapport à la petite fille, qu'elle puisse lâcher même l'idée qu'il y avait des blessures de petite fille, qu'elle puisse rencontrer avec ce qui était plus profond. Alors là, je l'ai invitée aussi, et si tu lâches l'histoire, l'image et le concept de la petite fille, qu'est-ce qui reste? Ben, il restait la pureté et l'innocence, donc il restait l'être. Et donc c'est ça en fait pour moi l'enfant intérieur, c'est qu'on contacte avec quelque chose de plus profond. Et l'amalgame qui peut être fait de nouveau, c'est que de nouveau il y a un enfant à guérir, il y a des blessures à et moi je crois pas en tout ça en fait. C'est que quand on recontacte avec cette pureté et cette innocence, c'est véritablement l'être, et c'est ça qui guérit, c'est la guérison ultime. C'est
à dire que nous nous racontons toujours plein d'histoires, et si on arrête de se raconter toutes ces histoires, on va les connecter,
on se rend compte qu'on est déjà guéri.
C'est ça.
On se rend compte qu'on n'a jamais eu de blessure, en fait. Et c'est ça, la véritable guérison.
On est comme un rêveur d'une vie que nous créons, un personnage.
Exactement.
On a envie de jouer la victime, on a envie de jouer le bourreau. Mais pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau.
C'est ça. Donc il y a toujours quelqu'un qui va le jouer.
C'est ça.
Il y a toujours quelqu'un qui est assez dévoué, quelque part, pour jouer le rôle qu'on lui demande de jouer, pour qu'on puisse jouer le nôtre à fond.
Et c'est ça, parce qu'on est tellement aussi ancré dans cette notion du bien et du mal. Que celui qui fait le bien, faut bien qu'il y ait celui qui fait le mal pour que l'autre puisse vivre le bien.
Bien sûr. Si je veux être la personne parfaite, moi j'ai vu ça beaucoup avec ma sœur à un moment, dans ma relation avec elle, je voyais que je voulais tellement être parfaite qu'il fallait que j'ai une sœur qui soit imparfaite. Puis quand j'ai reconnu en fait ça, j'ai lâché, parce que tout ce que je voulais c'était qu'elle soit heureuse, moi je voulais pas vivre ça. Et donc j'ai repris en fait toutes mes projections, tout ce que je voyais chez elle, je l'ai repris chez moi, j'ai vu que c'était bien ici que ça se trouvait, c'était juste que ça voulait pas être reconnu ici. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit déprimé, qui soit imparfait, qui soit ci, qui soit là, pour que moi je puisse être celle qui était parfaite en joie, machin et tout. Et tu peux pas accepter la totalité de ton être si tu vas pas accepter ça aussi. Tu peux pas accepter le Bouddha si t'acceptes pas Hitler en toi, quoi.
C'est ça.
Tu vois, et c'est ça la complétude, hein.
C'est ça. Et qu'il faut un sacré courage à la personne qui vient s'incarner sur Terre pour dire je vais jouer le Hitler, je vais jouer le méchant et je vais faire du mal et puis vous allez tous me détester.
C'est ça. Mais quand on regarde le dictateur en soi, waouh. C'est là qu'on se dit, wow, ok, l'écoute de moi, je connais pas, parce que quand on voit comment on peut être dictateur avec soi-même, comment on peut être vraiment violent avec soi-même, et on peut reconnaître ce terroriste intérieur à chaque instant véritablement, au lieu de blâmer les autres, de blâmer la société, de blâmer les guerres, de blâmer si, mais regardons la guerre en nous, regardons le terroriste en nous, regardons Hitler en nous, et là on va être libre, et là on va libérer le monde entier avec nous. C'est une chanson qui me touche vraiment profondément, en fait. C'est un de mes meilleurs amis d'Hawaï. J'ai vécu un an à Hawaï. Et puis j'ai profondément renoué avec le piano là-bas, en fait. Et le piano, j'ai une expérience très très profonde avec. Ça vient toucher une pureté que j'avais jamais touchée avant, en fait. J'ai reçu une chanson, d'ailleurs, que j'ai jouée à cet ami, que j'ai chantée à cet ami, qui l'a mis en musique. Que je trouve merveilleuse, mais là en fait j'ai passé des semaines sur son lit à l'écouter jouer du piano, tellement le piano me touche et tellement cet ami me touche profondément aussi. Et il m'a dédié cette chanson et il l'a appelée pour Armel. Et c'est pour moi, cette chanson, quand je l'entends, j'ai souvent envie de pleurer, parce que la première fois que je l'ai entendue, j'étais en larmes. C'est l'amour qui parle, c'est la grâce qui parle. Il l'a reçu, cette chanson, il l'a composée spontanément comme ça. Et j'étais comme, oh my God. C'était comme si, pour moi, mon expérience du piano, c'est Dieu me parle à travers ses notes, à travers ses sons, à travers comment il fait bouger mes doigts. Enfin voilà, la vie me parle, peu importe. Et c'est pareil à travers lui, en fait, à travers cet ami. Et on a vraiment une merveilleuse connexion comme ça. Et cette chanson, je l'écoute très très souvent et ça me touche toujours, toujours vraiment beaucoup.
Ça s'est senti,
ouais.
Ça s'est vu aussi. Ah, c'était bon. Armel, ça fait déjà 2 heures que tu es là.
Ah bah écoute, c'était une belle façon de terminer.
Nous pouvons encore rester un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes, 3 heures, 5 heures. Encore un petit peu. Si t'as envie de chanter, si tu sens que ça vient, on arrête de parler Et tu le fais. Si ça vient pas.
Je peux te chanter quelques lignes parce que ça parle vraiment de ça en fait. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Je te donne ma vie, mais c'est en anglais évidemment. I give my life over to you. I give my life over to you. For I don't know what anything is for. I don't know. And I don't need to know. I don't know. I don't know. For I don't know, but you do. No, I don't know, but you do. So I want you to guide me. I want you to show me. I want you to guide me. 'Cause I don't know, but you do. No, I don't know, but you do. Yes, you do. And so I give my life over to you. I give my life over to you. For I don't know what anything means. I don't know. And I don't need to know. I don't. No, I don't. No, I don't.
Waouh, eh, comme ça, hein, en direct là. Waouh, bravo.
Je pense que je me suis trompée un peu dans les paroles. Je dois avoir mélangé des refrains et des trucs, mais
tu sais, we don't speak English alors.
Puis il y a personne qui connaît la chanson.
C'est ça en plus. Simplement, je ne sais pas, mais tu le fais quoi, c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est je te donne ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi et quoi que ce soit. Mais tu le sais, donc montre-moi. C'est vraiment cette profonde reconnaissance que peu importe la forme des choses, en fait, montre-moi, guide-moi, montre-moi. Et c'est véritablement pour moi ce je ne sais pas. Et se laisser, ce que je sais, c'est ce que je suis, c'est ce que je veux, c'est cet amour que je suis. Le reste, montre-moi. Je te donne ma vie. Donc ça revenait un peu avec ce que tu disais.
Quand tu disais c'est ce que je suis, j'entendais le je suis. Pour toi, c'est une formule magique aussi, je suis. Et après, ce qu'on met, tu vois, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Et puis, on devient.
Ouais.
C'est vraiment une formule magique pour toi.
Oui, évidemment. C'est ce qu'on est avant toute forme, de toute façon. Donc, oui. Et c'est ça qui est créateur, en fait. C'est ce je suis qui est créateur. C'est pour ça que tu dis on le devient après. Je suis malade. Et puis, on va croire que c'est vraiment ce qu'on est, alors que. On est tout simplement.
Parce que tu vois, moi j'ai justement fait l'expérience de la grippe il y a le mois dernier là, et je disais oh, je suis malade. Je me rendais compte après que plus je le disais
plus t'allais mal.
Ouais, donc après j'arrêtais, je disais je fais l'expérience de la grippe ou je me sens comme ça. Et c'est vrai que cette formule, c'est vrai que j'avais lu ça dans, je sais pas si c'est un livre que tu as lu, si c'est un livre qui te parle, c'est Conversation avec Dieu.
Oh, il y a des années, oui. Je me souviens plus.
Tu t'en souviens?
Non.
Et dans ce livre, il explique justement que c'est the formule magique.
Okay.
C'est dites je suis, puis après faites attention à ce que vous dites parce que vous allez le vivre.
Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est ça, le je suis, c'est la conscience, c'est le principe créateur divin, en fait. C'est tout. C'est ça, cette reconnaissance absolue.
Dans cette reconnaissance absolue, et on va peut-être conclure là-dessus ou pas, d'ailleurs je ne sais pas si j'ai envie de conclure sur je ne sais pas quoi, mais j'aimerais encore aborder un thème.
Vas-y.
C'est la cuisson des brownies. Non, je rigole.
Oh my god, les brownies au chocolat, c'est une des choses que j'adore.
Si tu veux donner la recette, si tu sais les cuisiner.
Je ne la connais pas non. Mon dessert préféré, c'est le soufflé au chocolat. Ça par contre, je l'ai fait à merveille.
Non, moi ce dont j'aimerais tu nous dises quelques mots, c'est sur cette notion d'ange, de guide. Est-ce que pour toi ça te parle? Est-ce que pour toi ça a une résonance?
ça me parle pas non, ça me parle pas aujourd'hui dans ma vie, mais je sais qu'il y a un moment où en fait non, j'ai jamais vraiment eu un guide ou un ange, j'ai jamais vraiment, mais je peux entendre ça et je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent ça et qui croient en ça et tout ça, et je pense que ceux qui croient en ça, c'est la façon dont leur expression spécifique qui leur est propre, à travers ça, les guide à cette reconnaissance d'eux-mêmes. Donc, si on peut voir que c'est un symbole pour se reconnaître dans cet absolu, dans cet invisible, dans ce sans forme que nous sommes, et pas une forme extérieure qui, à laquelle on donne c'est du ça. Pouvoir et qui nous, du coup, nous enlève notre pouvoir, enfin, pas nous enlève, mais auquel on donne du pouvoir et du coup on ne reconnaît pas son pouvoir, voilà, c'est le seul truc, mais excuse-moi, je pense que tout, en fait, a sa place. Moi, à un moment dans ma vie, je croyais à fond au chamanisme. Et c'était la chose la plus importante. C'était comme ça que ça me reconnectait à moi, en fait. Au travers de ça,
ce qui s'est... C'était la danse, c'est ça,
non, non, c'était après. C'est... Okay. Le chamanisme, ça a été vraiment une ouverture plus profonde à cette écoute de moi. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une chamane quand je vivais au Québec, et qui m'a dit, tu fais juste tout ce qui te vient. Et donc, c'est comme s'il y avait... une plus profonde écoute de moi-même, en fait, au travers de ça. Et très vite, c'est tombé. Très vite, c'est tombé parce que Jésus est réentré dans ma vie.
Oui, donc, il y a des étapes, quoi.
Et donc, oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense que... Moi, je lâche les choses quand elles font plus de sens, en fait. Mm-hmm. Et je pense que c'est important de pouvoir lâcher des choses qui, aujourd'hui, ne résonnent plus, tout simplement. Parce qu'on a... On a des stepping stones, on dit en anglais. On a des choses qui viennent comme des étapes. Et puis à un moment ça tombe, et puis c'est autre chose, et puis ça tombe, et puis c'est autre chose, et puis mm-hmm. mais tout nous c'est ramène la vie, à la même chose,
ça,
en fait.
Ça, mais dans ce que je vais retirer de ce que tu viens de dire, c'est que le principal, c'est de ne pas donner son pouvoir à ce qu'il y aurait extérieur à nous.
Exactement.
Que ce soit un ange, que ce soit un chaman, que ce soit un guide,
exactement.
Que ce soit un maître, que ce soit
tout à fait. C'est que tout ça n'est là que pour une chose, c'est pour qu'on reconnaisse voilà. que le pouvoir est en nous et qu'on se reconnaisse dans ce principe créateur. Voilà. Ce je suis, c'est absolu.
C'est le je suis, donc à travers ce je suis, si on passe par un ange, par un chaman, par un esprit de la nature, peu importe, ok, mais...
Il nous ramène juste à nous.
Dans cette période du chamanisme, t'as testé des plantes comme l'ayahuasca ou...
J'ai fait une fois, oui, l'ayahuasca.
Alors
deux fois, je pense même.
Ouais. Pas en France, bien sûr, parce que non. C'est interdit. T'étais au Pérou, t'étais, je sais, au Québec.
Non, j'étais en Hollande, je pense.
Ok. Donc, ça t'a...
Moi, ça a été une merveilleuse expérience, parce que la première fois, j'ai vécu quelque chose de très beau dans l'amour que je vivais pour mon père et dans la reconnexion avec mon père et de voir comment il avait toujours été le père parfait. Et ça a balayé tout ce que j'avais pu entendre de lui ou toutes les images que j'avais.
D'accord.
C'était fabuleux. Et la deuxième fois, c'était très très beau aussi. J'ai eu des visions. En fait, je me suis vue donner des conférences à des foules. C'est ce dont je me souviens. Et puis... voilà, en gros c'est tout, je me souviens plus de trop, mais voilà, pour moi c'était, je sais pas, c'était juste une étape de nouveau. Il y a pas vraiment eu de donner de pouvoir, il y avait pas de désir de faire plus, il y avait pas de désir de faire autre chose. C'était l'opportunité. J'avais un ami péruvien, et puis voilà, qui m'a parlé de ça. J'adorais le voir, j'adorais les moments musicaux qu'on passait ensemble. Et puis il m'a dit, tiens, j'ai ça. Je fais, ah tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui m'en ont parlé. Et puis c'est entré dans ma vie. Puis voilà, moi j'étais très à l'écoute de tout ça. Donc en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que je suis très à l'écoute, mais il n'y a pas d'attachement. Pas d'attachement aux choses comme ça, en fait, à rester dedans, à croire que... En fait, je pense que... C'est comme si je peux aller chercher la substantique moelle des choses. On dit ça,
Substantique, oui, non?
Ouais, je pense.
Substantielle.
Substantifique. Oui, c'est ça.
Substantifique.
La substantifique moelle des choses, quand elles sont là et je vois ça, et je peux vivre ça à travers, par exemple, la communauté spirituelle dans laquelle j'ai vécu. J'ai pu vivre ça avec les gens qui étaient là, avec l'enseignant qui était là, et prendre ça. Mais toujours, quelque part, hein, quand ça ne résonne plus, ça résonne plus, c'est parti. Et donc ça peut être pour un moment, ça peut être pour plusieurs mois, mais quand ça ne résonne plus, c'est plus là. Et je pense que c'est très sain, en fait, parce que ça nous ramène toujours à nous, et c'est jamais pour s'attacher à la forme.
Il y a une expression qui dit « tous les chemins mènent à Rome
mm-hmm. ».
On va enlever le mot « Rome », on va mettre
« soi »
à ouais. la place, « tous les chemins mènent à soi », c'est-à-dire que toutes les expériences mm-hmm. sont bonnes à vivre, du moment... où on ne se perd pas à l'extérieur de soi-même, que ça nous ramène à nous-mêmes.
Oui.
Et quelle que soit l'expérience, que ça passe par la maladie, par l'ayahuasca, par le chant, par le faire l'amour. On a, tiens, on n'a pas parlé de sexualité, mais bon, on va pas. J'écoute, il fait si, il parle. À sa fin, petit à petit, nous allons aller vers une fin qui n'est pas une fin en soi, parce que la vie continue, et comme la mort n'existe pas, donc la vie, c'est la vie qui suit son mouvement. Hors antenne, nous parlions de sexualité, nous avions dit, tiens, si tu voulais nous dire deux mots sur la sexualité, si tu en as envie.
Bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, ça fait partie de la vie, c'est comme le reste, c'est pas différent de... C'est pas différent de se brosser les dents, c'est pas différent de manger un bout, en fait, ça fait partie de ce qui fait partie de la vie, donc il n'y a rien de spécifique pour moi, c'est juste de nouveau une écoute de soi. Il n'y a pas une bonne façon de la vivre, il n'y a pas y a comment je le sens moi, il y a cette écoute profonde, en fait. Et véritablement, c'est tout ce que j'aurais à en dire, je pense que c'est tout aussi important que le reste, en fonction de là où on est dans l'instant et de ce qu'on sent qui nous appelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées aussi au travers de ça. Et je pense que ça peut être merveilleux, justement, de pouvoir authentiquement se dire aussi à travers ça, se vivre, se découvrir, et puis voilà, de voir, de lâcher toutes les vieilles croyances, en fait. Pareil.
Mais lâcher toutes les vieilles croyances que la chair est péché.
Oui, par exemple.
Que la sexualité, c'est le diable.
Oui, c'est ça. Parce que ça l'est pas du tout. C'est juste, c'est une expression, c'est une communication, c'est une façon de se joindre à l'autre, c'est un partage.
Et, c'est toi qui as choisi la chanson, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi.
Ouais.
Mais aimer dans l'acte charnel aussi, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Bien sûr. Parce que de toute façon, tu ne rencontres, pour moi, tu ne rencontres pas l'autre dans la sexualité. Tu rencontres pas l'autre si tu n'es pas toi-même présent.
C'est ça.
L'acte sexuel sans présence, c'est juste, c'est vide. c'est vraiment vide. Enfin, ouais, c'est mon expérience, c'est vide. Mais dans la présence à soi, alors tu rencontres aussi l'autre. Et la sexualité se vit complètement différemment. Et ça peut être n'importe comment. C'est pas, de nouveau, il n'y a pas de façon spirituelle de le vivre, je pense. Il y a juste... qu'est-ce qui m'habite là dans l'instant, en fait, véritablement ? Et cette connexion à son partenaire ou sa partenaire.
Je vois Jean-Claude qui a un livre.
Chut. Oui. Je ne dis rien. Je ne sais pas si je la reverrai. L'instant présent qui passe déjà. Mais j'aimerais... c'est vraiment exceptionnel ce que je vais demander à Armel. Je vais lui demander de lire quelques lignes. Après, elle pourra regarder la couverture, si elle veut. J'ai mis une petite flèche. Et j'aimerais que tu lises à partir de la flèche.
Okay.
Jusqu'à la fin du paragraphe.
Bien sûr.
Pour garder ta voix.
Bien sûr. La mort est bien là pour nous rappeler que nous ne faisons que passer et que rien de ce que nous avons tracé sur cette terre ne nous survivra. Nous pouvons y laisser un nom, une œuvre, un empire, mais tout finira immanquablement par disparaître. Tout sauf l'amour que nous aurons semé sur notre chemin et qui continuera à fleurir bien au-delà de notre passage. L'univers est en constante mutation et rien de ce qui est physique ou matériel n'est fait pour durer éternellement. Tout se transforme dans une logique qui souvent nous échappe. L'impermanence est l'essence même de la vie. Tout à fait. Merveilleux.
Donc maintenant, tu peux regarder la couverture.
Ok, c'est Jean-Claude.
Voilà.
Fabuleux.
Yeah. On s'est demandé toujours.
Voilà.
Merci, Armel.
Merci, Jean-Claude.
Armel, je vais te remercier de ces 2 heures et quelques passées ensemble en notre compagnie avec les auditeurs.
Un immense plaisir, Franck. Véritablement, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait vendredi matin ou jeudi, quelque chose comme ça, alors que j'étais dans le train. Et vraiment fabuleux. La magie de la vie de nouveau opère de façon spectaculaire en permanence.
T'as envie de rajouter quelque chose, un mot tu...
Moi, juste que je vous souhaite à tous d'écouter profondément votre cœur, en fait, et de vivre vraiment tous les élans qui vous habitent, et de vous faire confiance profondément, parce que vous ne vivrez jamais l'expérience de quelqu'un d'autre, mais le maître est en vous, alors écoutez-vous.
Si, juste avant, quand même, soyons pragmatiques.
Tu sais, elle me fait penser à cette femme.
Ama.
Ouais. Un jour.
J'adore les hugs, d'ailleurs.
Toi aussi. Tu pratiqueras le darshan. Souviens-toi ça.
Je le fais déjà très fort dans mes rencontres. Oui.
Tu donnes ton site. Voilà, c'est ça ce que je cherche.
www.
Pour que les gens qui te découvrent se disent tiens, j'aimerais connaître un peu mieux ton actualité, te suivre, etc.
Tes voyages.
Oui. www.rencontreenpresence.com. Il n'y a pas d'accent sur présence, tout est en un mot. Donc là, je suis à Tours. Mercredi soir,
oui.
Pour une rencontre. Ensuite, je pars au Brésil, en effet, le 13 mars. J'ai une rencontre le 16 et je fais un week-end de retraite le vendredi, samedi, dimanche qui suit.
Au Brésil,
à Sao Paulo. Puis je reviens et là, je vais faire 3 semaines de retraite à Figeac, dans le sud-ouest de la France.
Okay.
Et donc, c'est 21 jours pour changer de vie et on peut faire 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines.
D'accord.
Donc ça c'est pour l'actualité, j'ai envie de dire récente. Par contre, je serai de retour à Paris le 24, 25 et 26 avril avec un week-end un peu particulier parce que ce sera justement Darshan et Inner Dance.
Moi je serai
donc,
en Corse.
C'est l'opportunité de découvrir la danse dont j'ai parlé à travers ce week-end, 24, 25 et 26 avril. Voilà. Et puis plein d'autres choses, mais allez sur le site et visitez. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Toutes mes conférences, absolument toutes les rencontres que je donne sont gratuites sur le net, sur spreaker.com/armel, A-R-M-E-2-L-E.
Comment ça s'écrit Spreaker? Parce que tu sais, nous, les Français, c'est Spreaker.
spreaker.com/armel. Et là, vous avez absolument tout depuis plusieurs années, qui est là gratuitement pour être utilisé. Donc, allez-y surtout. Quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal déjà.
Vous pourrez réécouter cette émission sur la chaîne YouTube de la Web TV Étoile du Cœur.
Ah, oh, fabuleux.
Pour 50 minutes.
Ah, oh, fabuleux.
Donc, dans très peu de temps.
Et sur la Web TV.
dans 3 minutes, mais voilà, il y a la Web TV et une chaîne YouTube, faisons de la publicité aussi pour nous, Étoile du Cœur, avec toutes les émissions depuis la création de cette Web TV.
1423 émissions.
1423 émissions.
Waouh. Wow. Ouais.
C'est pas mal. En septembre 2012. On a travaillé, hein.
C'est bien, bravo. Mmh.
Tu reviens quand?
Jeudi.
Avec
Christiane Ridel.
Que tu connais?
Oui, que je connais, ça sera pour l'interprétation des rêves. Tiens, on aurait pu en parler des rêves. Mais bon, voilà, je te remercie grandement. Mais vraiment, c'était une belle rencontre. Mmh. Et puis, allez, voilà quoi.
Plaisir partagé.
Allez, au revoir.
C'est le générique de Franck. Que vous retrouverez jeudi. Et demain, ça tombe bien, nous parlerons de sexualité. Sexe sans langue de bois. Avec Angélique Veillard.